Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce soir, nous allons parler de la monnaie, en théorie. La semaine prochaine, au prochain de nos conférences, avec Marc de Citivo, nous mettrons tout ça en application en complétant ce que je vais vous dire sur la monnaie et sur les crises. En introduction, juste un mot, je suis très très heureux de ne plus faire de politique car j'aurais été obligé de déclarer mon patrimoine. Et mon patrimoine, c'est essentiellement ceci, un cadeau de mon fils, 100 000 milliards de dollars. C'est un billet du Zimbabwe. Et je trouve que c'est une excellente introduction à la question de la monnaie. Je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée lorsque j'étais étudiant. Je me souviens d'être allé assister à un procès assez extraordinaire, de celui qui va rester comme le roi français, made in France, des faux-monnayeurs, polonais réfugiés en France, un inventeur de génie. C'est à lui notamment que l'on doit la petite capsule de café qui a été ensuite, le brevet, a été revendu aux Suisses. Mais il est davantage connu pour son extraordinaire talent de faux-monnayeur. Et c'était donc son procès au palais de justice. Il ne faisait pas que des dosettes de café, what else, il faisait aussi des faux billets dans le sous-sol de son petit pavillon de Montgeron, et ceci a donné un film avec Jean Gabin, le jardinier d'Argenteuil. Voyons, voici ce que disait la télévision à l'époque.
Soit arrivé à une telle perfection, et ce, c'est unique.
C'est pour ça qu'il a surnommé donc le Cézanne de la fausse monnaie.
Au musée de la fausse monnaie, près d'Annecy, Bojarski occupe une base de choix. À partir de 1951, l'homme se lance dans la fabrication de faux billets, tout seul.
Le tout premier faux billet, donc c'est ce qu'on appelle le 1000 francs bleus.
Bojarski. Un faux air de faussaire.
Alors ce billet a été signé par Bojarski et il était offert à Albert Ducasseau, l'inspecteur qui l'a arrêté. Il a signé le faussaire du XXe siècle.
Un maître qui signe ses faux billets comme de vrais tableaux a des policiers en admiration. Quand il l'arrête, les enquêteurs veulent comprendre comment un homme a pu fabriquer seul dans la cave de son pavillon de banlieue 30 000 faux billets pendant 13 ans. Alors ici, Bojarski enseigne sa méthode à la police. Une personne pour l'équivalent d'une douzaine de métiers.
Bojarski commence par préparer la pâte à papier avec un papier à cigarette et du papier à dessin, malaxé dans l'eau de pluie.
Pâte à papier, plaque de gravure, encre, impression, technique pour brillir les billets. L'ingénieur, diplômé de Polytechnique en Pologne, fait tout, tel un artiste.
Cet appareil est de son invention et de sa fabrication. Il le grave au poinçon, à main, ou à la fraise de dentiste.
Chez soi, Bojarski voulait juste offrir une vie de confort à sa femme et ses enfants. Discrètement, il dépense un billet par-ci, un autre par-là. Mais parce qu'il fait participer Chuvalov, son beau-frère et un ami à sa petite affaire, Bojarski précipite sa chute. En 1964, il est dénoncé, arrêté, condamné.
Sans les erreurs de Chuvalov,
eh ben, il ne serait pas là aujourd'hui, peut-être. Il ne serait pas reconnu comme le plus grand faussaire.
Et voici son chef-d'œuvre, le 100 nouveaux francs Bonaparte.
Impossible pour un néophyte de les reconnaître.
Pour cet expert, l'artiste faussaire frôle la perfection, à deux ou trois détails.
Le chiffre 100 à un demi-millimètre plus près de la marge. La petite feuille qui est là, le pétale n'est pas fermé. La mèche du Bojarski est légèrement, peut-être un millimètre ou deux plus longue. Mais si vous voyez ça dans une liasse, il est impossible, impossible, totalement impossible de pouvoir le reconnaître comme ça.
Aujourd'hui, la valeur d'un faux signé Bojarski dépasse celle d'un vrai. En 2008, l'un de ses billets atteint même lors d'une vente aux enchères 5 543 euros.
Reste quoi de Bojarski?
le but. Il reste un petit peu une histoire qui pourrait faire un beau film, mais quand même en se terminant par 20 ans de prison.
Ça reste un faussaire.
Ça reste un faussaire.
L'histoire a d'ailleurs inspiré un film avec Jean Gabin.
Celui qu'on a appelé le faussaire génial.
Après 13 ans de prison, Bojarski mène une vie tranquille. Il est mort en 2003, à l'âge de 90 ans.
Alors, ce qui est extraordinaire dans l'affaire Bojarski, c'est donc, jeune étudiant, je vais assister à son procès. Et Bojarski a une défense étonnante. Il dit, j'ai pas cherché à m'enrichir, j'ai juste cherché à faire le bien autour de moi. Et il va appeler en quelque sorte, en témoin, Lord Maynard Keynes. En disant, au fond, ce que font les banques centrales, ce que M. Keynes propose pour le bien du monde, je l'ai fait à mon échelle pour le bien de mon genre. Et ce fut donc ma première leçon d'économie. Et une source de beaucoup d'interrogations, Bojarski était condamné, Keynes adulé, et les banques centrales respectées. Il n'y a rien de plus compliqué que l'histoire de la monnaie. Je vais en prendre. Et pour expliquer la monnaie, le mieux c'est de mener une enquête aux origines de la monnaie. Si la monnaie n'existait pas, indiscutablement il faudrait l'inventer. D'ailleurs, quand elle n'existe pas, on l'invente. J'ai inventé une monnaie, comme bien d'autres d'ailleurs, dans ma cour d'école. C'était des billes avec lesquelles on échangeait un petit camion de pompiers. Et dans toutes les prisons, les camps de prisonniers, partout dans le monde...
Tu n'as pas le téléphone, non ?
Non. Partout dans le monde, on s'est retrouvé avec des cigarettes qui servent de monnaie d'échange. La monnaie, c'est important, donc, c'est une création spontanée. Elle apparaît avec les échanges économiques, elle n'est pas une création de l'État. En fait, les premières formes de division du travail sont associées avec le troc et très rapidement avec la monnaie, car le troc est malaisé. Je prends l'exemple, je suis professeur d'économie, je décide d'acheter des œufs à un fermier. Pas facile de trouver un éleveur capable d'échanger des œufs contre des actions d'économie. Et donc, très vite, des marchandises acceptées par tous vont servir de monnaie d'échange. Car la monnaie n'est qu'un bien intermédiaire, comme vous le savez, on en avait vu avec Jean-Baptiste Say. Les échanges terminés, il se trouve toujours qu'un bien a été échangé contre un autre bien, ou un service contre un service. Spontanément, les hommes vont fabriquer de la monnaie, et comme marchandise intermédiaire, on va tout essayer, tout tester. Les coquillages, les feuilles de tabac, le sucre, le sel en Abyssinie, le cuivre dans l'ancienne Égypte, les semences, bien évidemment, les perles, le bétail. Ah, le bétail, ça, c'est la vedette des échanges. Pourquoi ? Parce que, à la différence d'un sac de blé, il se transporte lui-même. Donc, c'est quand même plus facile. Et l'étymologie, j'en fais parfois, est toujours intéressante. Chez les Romains, pecus veut dire bétail, ce qui a formé pecunia, pécuniaire. Le mot pécule, pécunium, ça veut dire un petit troupeau. De même, dans toutes les langues sémitiques, la monnaie est associée au mouton ou au chameau, ce qui prouve bien que le bétail, au sens large, était la monnaie, comme les bétails étaient comptés per capita, c'est ainsi que on a inventé le mot capital, ça vient du bétail. On a donc tout essayé. On a même essayé, ça c'est une monnaie originale dont Milton Friedman parle dans son livre sur la monnaie, les monnaies de pierre de l'île de Yap, qui est utilisée jusque en 1900. Depuis c'est le dollar. Hein. Mais très tardivement, ce sont des monnaies dont la plus grande unité de compte, c'est ici, elle fait 3,60 m de diamètre. Pas très facile, mais cela montre le caractère totalement symbolique. D'ailleurs, cela est si vrai qu'il y a un bateau qui transportait des monnaies de pierre de 3,60 m, il a coulé. C'est pas grave, on les a quand même utilisées comme monnaie. Elles ne circulaient plus, mais elles étaient la référence. Vous voyez bien que nous sommes ici aux sources de la monnaie. Mais donc, au fil de l'histoire, néanmoins, ce sont les monnaies métalliques, principalement en or, accessoirement en argent, qui vont s'imposer. Le plus ancien des livres de la Bible, la Genèse, rapporte l'histoire de monnaie métallique avec Abraham qui se procure 400 shekels d'argent et en cours chez le marchand. Le shekel, qu'est-ce que c'est à l'époque? Nous sommes donc 5000 ans avant Jésus-Christ. En Mésopotamie, le shekel, c'est une unité de poids. Donc la monnaie se pèse. Et puis la monnaie va se frapper. Et c'est en Asie mineure, du temps des rois de Lydie, dont le plus célèbre est le roi Crésus, qu'on invente entre moins 500 et moins 600 les premières monnaies métalliques, des petits disques de métal, composé d'or pur. L'or pur est extrait de la célèbre rivière Pactole, le Pactole, qui abreuve la capitale du roi Crésus, et d'un petit mélange avec de l'argent. Et donc nous avons les premières monnaies frappées par l'État. C'est une invention majeure, hein, parce que pas besoin de vérifier à chaque transaction si la monnaie est bien comptée, si le poids est bon, si etc. etc. Et donc, à partir de ce moment-là, la monnaie frappée par l'État, qui rend inutile la pesée, va progressivement émerger. Et le seigneur qui frappe ses pièces, qui met sa marque, au-delà de les avoir pesées, reçoit au-delà du seul coup de la frappe un petit bonus pour la marque. C'est ce qu'on appelle le célèbre droit de seigneuriage. C'est né de la frappe des pièces. Au terme de cette longue sélection darwinienne, c'est assurément l'or qui est apparu et qui a émergé. Parce que l'or a trois qualités. La facilité de transport. Il est plus facile à transporter et à cacher qu'un troupeau de bétail ou qu'un chariot de sacs de blé. Il est facilement divisible sans perdre de sa valeur. Découper le bétail, c'est quand même plus difficile. Et il conserve sa valeur à travers le temps, alors que le blé se pourrit ou le bétail meurt de vieillesse. D'ailleurs, sa rareté et toutes ses qualités font que, il me semble que si l'on essayait de reprendre tout l'or produit depuis le début de l'histoire de l'humanité, ça ferait un cube de 25 mètres de côté. Un tiers de l'Arc de Triomphe. C'est vous dire l'extraordinaire condensation de richesse et de valeur qui existe dans l'or. Qu'est-ce que nous dit l'étymologie? C'est toujours intéressant. La monnaie, en grec, se dit nomisna, c'est la même racine que nomos. Nomos, on en a parlé lorsqu'on parlait de l'état de droit, de ce droit supérieur, antérieur à tout pouvoir, ce droit de l'état de droit. Donc la monnaie, c'est du droit, avec un grand D. Mais il y a une autre racine qui est moneta, c'est d'ailleurs le second qui est donné à Junon, mais ça a peu de choses à voir dans notre affaire. C'est que la racine, c'est monéo, où l'origine grecque est na, ce qui signifie souvenir ou mémoire. La racine étymologique complète, c'est nema. Donc la monnaie, c'est du droit et c'est de la mémoire. D'ailleurs, petit détour,
on ne dit pas est-ce que vous avez de l'or sur vous. On dit est-ce que vous avez de l'argent sur vous. Pourquoi lorsque l'on dit parle de monnaie, on parle d'argent et pas d'or? La raison, la mémoire toujours, c'est que sous le règne de Charlemagne, il n'y avait plus d'or, tout était parti à Byzance, chez les califes ou ailleurs. Il a fallu recommencer à refrapper des monnaies et il n'y avait que de l'argent disponible. Et ensuite, lorsque l'or est revenu, l'or était trop cher pour les transactions courantes qui se faisaient en argent. C'est ainsi que la monnaie du début du XXIe siècle garde la mémoire de la monnaie de Charlemagne. Donc les monnaies existaient avant que n'existe l'État, et le rôle de ceci, il est d'abord apparu simplement pour certifier la monnaie pour le meilleur et pour le pire. Le meilleur, c'est par exemple le solidus de Constantin, frappé pour la première fois en 310 par ce célèbre empereur romain, et qui a circulé sous ce nom jusqu'au Xe siècle. 6 siècles d'existence. Et le solidus, d'ailleurs, c'est toute mémoire toujours, c'est l'ancêtre de nos sous. Et à l'époque, juste pour l'anecdote, il y avait en Europe le solidus, solide, et le dinar. Et le dinar a été utilisé en Angleterre, en Allemagne ou ailleurs, comme le solidus. Ça se mélangeait en ayant bien évidemment cours au même moment dans les mêmes pays. Ça, c'est pour le meilleur, pour le pire, vous en avez des exemples à gauche, c'est que fort de l'endroit de battre monnaie, bien évidemment, les monarques vont se faire faux monnayeurs, et la liste n'en est que trop longue, elle commence. Même Crésus avait commencé à battre de la fausse monnaie. Enfin, disons que commence avec Néron, qui va diminuer la quantité de métaux précieux dans chaque pièce, pour augmenter le nombre de pièces en circulation. Ça va se continuer d'ailleurs sous les empereurs romains. Et quand Dioclétien va essayer, qui est lui-même aussi derrière des fausses monnaies, va essayer d'empêcher l'inflation en bridant tous les prix, ça va conduire à une catastrophe économique abominable qui va pour une part expliquer la chute de l'Empire romain. Dioclétien, c'est à lui que le maire de Londres a comparé récemment François Hollande, en disant que c'est la pire catastrophe intervenue depuis Dioclétien, puisqu'il faisait allusion effectivement à ses tentatives de dirigisme en économie qui s'était terminée par une horrible catastrophe. C'est vrai que on va voir aussi Philippe le Bel dire, non pas la dame de fer, mais le roi de fer, à court d'argent, qui après avoir confisqué tous les biens des Templiers, après avoir taxé les Juifs, les Lombards, va faire perdre à la monnaie 70% de sa valeur. On peut ajouter Philippe III, le roi d'Espagne, lui, il est pas mal parce que, si j'ose dire, il va frapper fort. Avec une seule pièce, il va en fabriquer 3. Et c'est à ce moment-là que l'on va voir apparaître l'idée que la quantité de monnaie en circulation explique le niveau des prix. C'est la célèbre théorie quantitative de la monnaie qui apparaît avec Jean Bodin, qui a été formalisée après sous la célèbre équation MV égale PQ, où M est la quantité de monnaie en circulation, V la vitesse de circulation de la monnaie, c'est-à-dire le nombre de fois qu'une même unité de monnaie permet de régler les transactions dans une période donnée. P, c'est le niveau des prix, et Q, on va côté, c'est la quantité de production dans une économie pour la même période. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que les achats en montant sont égales aux ventes. Hein, ni plus ni moins. Mais c'est la célèbre équation qui va servir de base à l'économiste Erwin Fischer, et qui va servir de base aussi au monétarisme, comme on le verra plus tard. Donc la monnaie a trois fonctions, c'est un instrument de compte et de calcul économique, étalon, qui permet de mesurer. C'est un instrument d'échange, un intermédiaire des échanges, sans les inconvénients du troc, et c'est une réserve de valeur. Ça se conserve, ça s'enterre dans son jardin et on garde un actif patrimonial toujours à chaque instant parfaitement liquide. Ça c'est pour la monnaie métallique. Mais poursuivons le fil de notre histoire. Comment est-on passé de la monnaie or, métal, au billet de banque? Donc, l'or, c'est la monnaie. Forger l'or, ou aussi forger l'argent, à cette époque, c'est le travail des orfèvres. Les orfèvres sont assis sur des bancs à l'entrée des villes. Ils pèsent et ils certifient les métaux pour les marchands qui se rendent aux grandes foires. Et puis ils vont inventer quelque chose, ils disent, ben, on va vous louer des coffres. Comme ça, ça vous évitera de vous transporter avec votre or sur vous et de vous faire dépouiller, et je vous donne un reçu nominatif avec le montant qui est déposé chez moi. Et puis, ben, après tout, c'est pas la peine de se balader avec l'or, j'ai un cousin à Bruges ou ailleurs. Vous allez avoir votre certificat, et en échange de votre certificat, il vous délivrera la même quantité d'or que vous avez mis chez moi. Et puis, ces certificats échangeables partout en France, partout en Europe, on va s'apercevoir bientôt qu'au lieu d'être nominatifs, on peut les mettre au porteur. Et un certificat de dépôt d'or au porteur, ça donne le premier billet de banque inventé en 1656, je ne sais plus si c'était en Suède, je crois que c'était en Suède. Voilà, donc c'est comme ça que sont nés les banques, les billets de banque et les banquiers. J'ai dit que la banque c'était le banc où c'était le petit comptoir à l'entrée des foires où officiaient les orfèvres. Et lorsqu'un orfèvre faisait faillite, symboliquement, on cassait son banc, bancarotto, le banc était rompu, c'était donc la banqueroute. Donc voilà les premiers banques nés, convertibles à chaque instant contre des dépôts d'or. Alors les orfèvres qui sont quand même un peu malins vont se dire, au fond les gens nous déposent de l'or, mais ils le retirent rarement. Et en plus, ils le retirent jamais tous en même temps. Donc je peux mettre peut-être un peu plus de billets en circulation qu'il n'y a d'or dans mes caisses. Et réalisant qu'ils étaient donc ainsi les seuls à savoir combien il y avait dans les caisses, ils pouvaient donc doser le nombre de certificats de garantie qu'ils mettaient en circulation. Alors, du coup, les gens qui déposaient de l'or se sont dit, ben, mon orfèvre, il est en train de s'enrichir sur mon dos. Donc ils ont dit, ben, on veut bien continuer comme ça, mais il faut que vous nous versiez un intérêt sur l'or qu'on vous dépose. Et c'est ainsi donc que la banque est née, la banque au sens moderne, le banquier qui fait crédit. Et ça, la chose la plus extraordinaire sur laquelle il faut s'arrêter un instant quand on parle des banques, parce que les gens ne le comprennent pas toujours, c'est l'extraordinaire miracle du crédit, la multiplication des prêts. Le banquier, sauf exception, ne fait jamais crédit avec son propre argent, mais avec le vôtre, le nôtre, avec l'argent de ses déposants. Donc le dépôt fait le crédit. Mais on peut dire même beaucoup plus, le crédit c'est la confiance, donc ça repose bien évidemment sur le fait que vous ayez confiance en moi, votre dépôt va donc fabriquer du crédit, mais en même temps, le fait de donner un crédit à M. Josso fait que M. Josso va mettre l'argent que je vais lui donner en crédit ou dans ma banque ou dans une autre banque en dépôt. Donc en réalité, le crédit fait le dépôt. Loan signal deposit. Le banquier crée de la monnaie. La banque centrale, ou le prince qui frappe la monnaie, crée de la monnaie. Le banquier crée aussi de la monnaie. Apparemment, sans limite, les banques vont pouvoir fonctionner en circuit fermé. La réalité, c'est que bien évidemment, Tout le système repose sur la confiance. C'est par nature une construction extrêmement fragile. Et donc, le métier de banquier, en réalité, lorsqu'il crée, non pas de la monnaie fiduciaire c'est le billet, mais lorsqu'il crée de la monnaie scripturale, c'est-à-dire des comptes nominaux à l'intérieur de sa banque, le banquier prend des risques. Et donc, le métier de banquier repose sur le calcul de risque. Le risque de l'emprunteur, Monsieur Josso doit offrir la garantie qu'il me remboursera le moment venu, et donc je dois avoir confiance en lui, ou prendre une garantie personnelle, ou avoir confiance dans son projet d'entreprise, donc c'est la première limite. Le crédit est par nature sélectif, mais surtout, je veux avoir la garantie l'argent reviendra, bien évidemment, et donc il y aura un effet de création monétaire positif, mais aussi que, au fond, un métier de banquier, ce n'est pas un métier de rapport avec M. Josso, puis rapport avec M. Dréan. En réalité, il y a une foule de déposants et une foule d'emprunteurs. Et donc, il y a, à l'arrivée, un calcul des probabilités qui va reposer sur cette loi des grands nombres qui a été formalisée au XVIIe siècle. La loi des grands nombres, c'est celle qui va servir de base au sondage. Plus l'échantillon est grand, plus vous avez de chances d'avoir quelque chose qui se rapproche du comportement réel de la population qui est testée. Si je joue à pile ou face, et au fond, un métier de banquier, c'est un peu ça, il joue à pile ou face, il faut qu'il y ait à peu près en permanence le même nombre de gens qui viennent apporter des dépôts, le même nombre de crédits, donc il faut que si je joue à pile ou face, pour que la série s'équilibre 50-50, ça a plus de chances de se faire si la série est, bien évidemment, très longue. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur les écarts-types, mais retenez simplement cela, c'est grâce à la loi des grands nombres que les banquiers peuvent faire leur travail, c'est grâce à la loi des grands nombres que les assureurs peuvent être assureurs. Si j'assure un bateau, je prends un risque énorme. Si j'assure 1000 bateaux, le risque par nature est difficile. Et donc, malgré les apparences, grâce à la loi des grands nombres, la banque va disposer en quelque sorte d'une assez grande stabilité des ressources, d'un équilibre naturel entre les dépôts et les retraites, et puis d'une réduction du risque par la mutualisation des grands nombres. Cela étant, malgré tout cela, la plus élémentaire prudence recommande à la banque d'être, je l'ai dit, non seulement sélective dans ses crédits, mais de garder un certain nombre de réserves pour faire face au risque de défaut des emprunteurs ou pour faire face à un afflux éventuel d'exigences de retrait. C'est le principe fondamental de la banque, les réserves fractionnées. Un système dans lequel la banque ne garde dans ses coffres qu'une fraction de l'argent qu'elle prête. Tout dépôt que je fais, que vous faites dans une banque, en virement ou en liquide, n'est pas considéré comme un simple dépôt, mais relisez les conditions écrites en tout petit sur votre carnet de chèques, dans les conditions générales de votre banque, c'est considéré comme un prêt librement consenti. Chaque fois que vous déposez de l'argent à la banque, vous faites un prêt à la banque, sur les conditions juridiques de base. Donc on va passer d'un système où, à l'origine, dans le bilan d'une banque équilibré à 100% par des capitaux, à un système où l'argent prêté, créant des dépôts, les dettes, en quelque sorte, vont être considérées comme du capital, à un système, enfin, où on va rajouter un taux de réserve dans le bilan de la banque en conservant une partie des dépôts. Ce qui signifie que la multiplication des pains ne peut aller à l'infini. Je ne sais pas si j'ai un exemple là. Oui, j'ai un exemple. suivant le taux de réserve que l'on donne à une banque, avec 2% de taux de réserve, vous voyez qu'à chaque transaction, bien évidemment, j'auto-limite l'argent que je peux prêter ensuite. Mais le rapport entre la monnaie scripturale créée par la banque et la monnaie fiduciaire nécessaire à la couverture s'appelle le multiplicateur de crédit. Si toutes ces précautions ne suffisent pas, il faut avoir recours à d'autres instruments. Parce que là, j'ai réduit le risque, mais je ne l'ai pas éliminé. Le vrai risque, c'est celui-là, le risque de banqueroute. C'est-à-dire que, pour une raison ou pour une autre, les déposants en masse se précipitent à la banque pour retirer leur argent. Nous avons des images de foules paniquées, réclamant leur argent au guichet des banques au 19e siècle, au 20e, et même encore au début du 21e siècle. Notamment, vous savez, la célèbre expérience, un mot quand même, de malheureuse de John Law. John Law était un personnage intéressant, parce qu'il avait dilapidé l'héritage familial en jouant. Il avait été condamné à la peine de mort pour avoir tué en duel, en trichant d'ailleurs, un mari trompé. Il achète ensuite ses geôliers, il s'enfuit sur le continent, il avait donc toutes les qualités pour être banquier. Et il convainc le prince régent Philippe d'Orléans, acculé à l'époque, comme le sont souvent les monarques par les dettes, de fonder une banque. Cette banque va se dépêcher d'imprimer une quantité de billets qui va créer une bulle artificielle. La banque est nationalisée, elle devient royale, et puis tout ceci se termine dans une apocalypse en 1720, dans une panique colossale et la ruine des clients de la banque. Et ceci est important parce que, mémoire toujours, ceci va expliquer très très longtemps la méfiance des Français pour les banques. À tel point que sous l'Empire, lorsqu'on va restaurer les premières banques, on va les appeler Crédit Mutuel, Société Générale, etc. Crédit Industriel et Commercial. On ne va pas leur donner le nom de banque. Parce que le nom de banque a tellement été discrédité du temps de John Law. En cas de difficulté économique, donc, si l'on mutualise les réserves, je peux sauver une banque. Vous me direz, mais si toutes les banques sont attaquées à la fois. Ce qui peut être le cas d'une panique politique, économique, des raisons guerrières, tout ce que vous voulez, et c'est arrivé à travers l'histoire, et là, game over. En réalité, le système ne repose au bout du compte que sur la force de l'État qui est derrière, qui dit, s'il le faut, j'irai prendre de force de l'argent dans la poche des contribuables pour honorer telle ou telle créance. Et donc, au début, on va donc mettre un certain nombre d'exigences réglementaires, de réserves bancaires. On va mutualiser ces réserves, mais retenez toujours qu'au bout du compte, le système de banque centrale, bancaire avec banque centrale, ne peut reposer que sur la force de l'État pour éviter les banqueroutes. Donc, ceci nous amène au rôle de l'État. L'État a besoin des banques, les banques ont besoin de l'État. Le capitalisme a besoin des banques et du multiplicateur de crédit. Les banques, compte tenu du système de réserve fractionnaire, sont par nature un système fragile qui a besoin, au bout du compte, de la garantie de la puissance publique. Mais si j'ose dire, c'est donnant-donnant. Les gouvernements vont récupérer les missions des billets de banque, vont contrôler les banques, vont leur offrir indirectement la garantie ou directement la garantie de la puissance publique. Puis ils vont être l'assurance contre la défiance ultime en cas de banqueroute, contre la défiance des banques entre elles si le marché interbancaire se paralyse comme on vient de le voir dans la crise, c'est la garantie donc implicite de le prélever de force de l'argent sur les contribuables, pour sauver le système bancaire, pour sauver les déposants, pour sauver les banques, pour sauver les actionnaires. Le débat est énorme, mais la sécurité de l'État est indispensable. Donc en échange, les États ont avec les banques l'assurance de pouvoir payer la dette publique. Avec le monopole des missions fiduciaires, ils pourront toujours refourguer leurs dettes dans les banques. Et ils pourront, bien mieux que les souverains d'autrefois, falsifier des pièces, c'est pas facile, imprimer autant de monnaies fiduciaires qu'ils le volent en cas de besoin. C'est ça le grand pacte qui existe entre les banques et l'État, et la connivence entre les banques et l'État, elle est de toutes les époques, et elle remonte aux premières banques, avec l'exemple des Médicis, une fortune florentine, mais qui en réalité agissent comme banque multinationale au service de la grande multinationale de l'époque qui s'appelle la papauté. Et la connivence va être totale. Le second fils de Laurent le Magnifique va d'ailleurs être élu cardinal à l'âge de 14 ans. Peut-être un conflit d'intérêts. Élu pape en 1513 sous le nom de Léon X. Un pape. Deux papes. Jules, le fils naturel du frère de Laurent, en 1523, il devient Clément VII. Et les pouvoirs politiques, n'en parlons pas. À la tête de Florence, Laurent met son fils naturel à la tête de Florence. Il marie sa cousine Catherine à François Ier, en attendant la célèbre Marie de Médicis, reine de France. Voilà pour le Médicis, mais je pourrais faire la même histoire avec les Fugger, la maison allemande, concurrente des Médicis, qui entretient la même connivence avec le pouvoir, ou Jacques Necker, etc. Enfin, je m'arrête. Toujours est-il que banque centrale, banque et pouvoir politique, sont par nature historiquement en conflit d'intérêts. D'ailleurs, l'histoire des banques centrales est intéressante. Honneur à la plus grande et la première, la plus prestigieuse des banques centrales, honneur donc à la Banque d'Angleterre. Elle a été fondée en 1694 sous l'impulsion de Guillaume III qui avait succédé à Jacques II qui s'était enfui en France avec la glorieuse révolution. Guillaume III était détesté par tout le monde, il ne trouvait pas à lever d'argent. Il vivait dans la crainte permanente du retour de son prédécesseur. Il ne pouvait pas obtenir l'accord du Parlement pour lever des impôts. Donc il a eu l'idée de créer une banque avec une charte qui l'autoriserait à prêter immédiatement au gouvernement anglais. C'est ainsi qu'est née cette vénérable institution. Vénérable parce que, assez rapidement, on va dire de la Banque d'Angleterre, qu'elle va constituer avec les trois autres institutions que sont le Parlement, le fisc et la dette publique, ce qu'on a appelé, ce que l'historien britannique Neil Ferguson a appelé le carré du pouvoir. Et on opposait le carré du pouvoir britannique à l'époque à la pauvre France monarchique qui est dépourvue de banque centrale, qui n'avait pas de parlement digne de ce nom, qui avait une fiscalité moyenâgeuse et qui était incapable de payer une dette publique gigantesque, France 0, Angleterre 4. La Banque de France, donc. La Banque de France, là aussi, pas sur la Révolution française, les assignats, etc. Après la Révolution, le directoire a des besoins d'argent tout à fait colossaux. On ne peut pas pratiquer la planche à billets. Les Français viennent d'expérimenter effectivement le désastre des assignats. Il ne reste qu'à essayer de trouver, à créer une sorte de grande banque. C'est l'idée du premier consul, avec quelques autres, fonder une banque, la Banque de France. Au début, la Banque de France, c'est une banque privée. Elle n'a pas de bureau, elle n'a pas de personnel, mais elle a des actionnaires. Et alors, quels actionnaires? Le premier consul, ses deux frères, le ministre du Trésor, le préfet de police, etc., etc. D'ailleurs, avec ses prestigieux parrains, la Banque de France va se comporter en parrain, elle va s'imposer sans ménagement. On arrête et on ruine les concurrents. On investit même militairement la Caisse d'Escompte et du Commerce qui fait de l'ombre à la nouvelle Banque de France. La Banque de France est née, elle aussi dans des origines aussi douteuses que celles de la Banque d'Angleterre. Et en 1803, on lui donne le privilège exclusif de l'émission de billets et elle peut rivaliser avec la Banque d'Angleterre. Troisième grande banque centrale, c'est celle de la Fédérale Réserve aux États-Unis. Elle est née en décembre 1913. Il y avait une grande panique bancaire en 1907, un effondrement de la bourse, moins 50%, crac, un bankrun horrible. Et il n'existait pas de banque centrale pour injecter des liquidités. Chaque banque était responsable de l'émission. Il y avait deux tentatives de création qui avaient avorté au 19e siècle. Entre les partisans de la liberté bancaire et les partisans d'une émission centralisée des billets, mais c'était le statu quo. Donc la Fed est créée. Ce qui est intéressant de la Fed, c'est qu'elle n'appartient pas au gouvernement. La Fed, elle, appartient exclusivement aux banques commerciales et aux banques d'investissement américaines, dont les six plus grandes, prestigieuses, dont les noms des frais laconiques de temps en temps. C'est la propriété des banques, la Fed. Même si le président, en réalité, a un pouvoir considérable par la nomination des gouverneurs et du gouverneur de la Banque centrale et des administrateurs. Mais vous trouvez ce même côté très, très mixte, avec une prédominance du privé, dans les 12 banques régionales de la Fed, qui ont un statut intermédiaire entre une vraie entreprise privée et une agence publique. Quel est le rôle de ces banques centrales? On peut dire qu'il y a un rôle national et un rôle international. En réalité, l'un et l'autre sont liés. L'action intérieure de la banque centrale n'est pas sans effet à l'extérieur, et l'action extérieure n'est pas sans effet, bien évidemment, à l'intérieur. Le but affiché de la banque centrale, c'est de calibrer la production de monnaie à la croissance de l'économie, avec une stabilité, sans inflation ni déflation. C'est la monnaie doit suivre le mouvement réel de l'économie. Et donc nous avons une création monétaire qui est double. La création monétaire par la banque centrale, c'est la monnaie fiduciaire. La création de monnaie scripturale par les banques commerciales, lorsqu'elles accordent des crédits aux entreprises, aux ménages. Lorsqu'elles financent le déficit des États, j'en ai dit un mot tout à l'heure, ou lorsqu'elles achètent des devises à l'étranger. Pour comprendre le fonctionnement de ces banques centrales, je voudrais revenir sur quatre idées clés. Les taux d'intérêt, l'inflation, la déflation, les agrégats monétaires. D'abord, le rôle des taux d'intérêt. C'est quelque chose de tout à fait essentiel. C'est l'affaire de la valeur du temps. Imaginez que vous ayez gagné à la loterie et qu'on vous donne le choix entre 10 millions d'euros tout de suite ou 10 millions d'euros dans un an ou 1 million d'euros à la fin de chaque année pendant 20 ans. Qu'est-ce que vous préférez? C'est la question de la valeur du temps. Et c'est un des principes fondamentaux de la finance. Un euro aujourd'hui, c'est pas la même chose qu'un euro demain. Un euro aujourd'hui peut être placé et deviendront plus qu'un euro demain. Si cet euro est placé à intérêt simple, il va accumuler le même intérêt à la fin de chaque période. S'il est placé à intérêt composé, les intérêts perçus vont eux-mêmes générer des intérêts futurs. C'est le principe de la capitalisation. Et à l'inverse, si je prends une somme donnée et je veux dans le futur, et je veux savoir son actualisation aujourd'hui, l'inverse de la capitalisation, c'est l'actualisation. Alors qu'est-ce qui va influencer sur la valeur? Il va bien évidemment y avoir la question de l'inflation, je la laisse de côté pour l'instant, même sans inflation, la valeur de l'argent d'aujourd'hui par rapport à l'argent de demain dépend de son intérêt réel. J'emprunte 100 euros à 5%, je devrais rendre 105 dans un an. Le calcul de la capitalisation obéit à une suite géométrique. Je n'ai pas donné de formule mathématique, c'est la seule que je vais donner. et ensuite l'a simplifié d'ailleurs, qui montre que l'on suit une courbe des intérêts composée rapidement, là j'ai marqué là, 5%, 0, 1 plus 0,05, ça fait 1,05, un nombre d'années, capital initial. Je me suis amusé à calculer ce que devrait donner 1 euro placé à 2% lors de la naissance de Jésus-Christ. C'est une source de perplexité pour moi. J'interrogerai les économistes amis nombreux présents dans cette salle, c'est à l'issue. 1 euro placé à 2% de la naissance de Jésus-Christ représente plus de 200 millions de milliards en 2013. C'est-à-dire 1000 fois la richesse actuelle totale de la planète. Heureusement qu'on ruine le capital de temps en temps, parce que sinon... vous voyez, l'extraordinaire force de la loi des intérêts composés. Donc revenons à notre problème, histoire de notre petit billet de loterie. La valeur actuelle de notre billet de loterie, j'ai appliqué la même formule, je devrais le faire. Mais si le taux d'intérêt, je me suis amusé à le faire sur un papier, si le taux d'intérêt est de 7,75 ou moins... eh bien, la valeur actuelle sera de plus de 10 millions. Si elle est inférieure, elle sera inférieure à 10 millions d'euros si le taux d'intérêt est 7,75 ou 7,76. Donc, dans un cas, ça va dépendre du taux d'intérêt. En dessous, c'est moins, au-dessus, c'est plus. Pour calculer cela, ça, c'est la formule mathématique que je préfère. C'est notre bonne vieille règle des 72. Pour savoir en combien d'années doublera votre épargne, il vous suffit de diviser 72 par le taux d'intérêt. À 3%, il vous faut 24 ans. À 6%, il vous faut 12. À 12%, il suffit de 6 ans. C'est un petit truc mnémotechnique, mais qui est très utile. Si j'ai 10% de croissance comme en Chine, ça signifie que le niveau de vie va doubler en 7 ans. Si j'ai 0,5% de croissance comme en France, ça signifie que le niveau de vie va doubler en 140 ans. Vous voyez tout de suite les effets rapides que l'on tire de la petite connaissance de cette règle de 72. Donc je reviens à mes taux d'intérêt. Mes taux d'intérêt sont utilisés pour mesurer la valeur de l'argent, le prix du temps. Un euro aujourd'hui vaut plus qu'un euro demain. Et pour mesurer la valeur du temps, en général, on va prendre les taux de marché des grands emprunts d'État. Solvable. Ça donne l'idée de la valeur du temps. Le taux d'intérêt, c'est aussi le prix du risque. Un euro certain, aujourd'hui, vaut mieux qu'un euro risqué incertain demain. Donc, on va prendre aussi en compte, bien évidemment, l'inflation. L'inflation, c'est partout et toujours un phénomène monétaire habile dans son raison, Milton Friedman. L'inflation, selon la définition généralement admise par tout le monde, c'est l'augmentation générale des prix. C'est une augmentation de la masse monétaire qui va déclencher une augmentation générale des prix. Théorie quantitative de la monnaie, MV égale PQ. Si la vélocité de la monnaie reste stable, si les quantités de biens produits restent stables, j'augmente la masse monétaire, P augmente. Le niveau des prix augmente forcément. La relation inverse existe aussi. En général, d'ailleurs, on le constate, 2 ans environ après les premiers symptômes inflationnistes et l'évolution de la masse monétaire, on voit l'inflation se déclencher. Donc, il y a un délai de longtemps constaté, entre 18 mois et 2 ans, l'augmentation de la masse monétaire et l'augmentation du niveau des prix. Attention cependant. Parce que très souvent, on confond l'inflation et la hausse des prix. Ça n'a rien à voir. Mais vraiment, rien à voir. L'inflation est toujours une hausse des prix. Ça, c'est vrai. Mais une hausse des prix n'est pas forcément du tout une inflation. Si le prix du pétrole augmente, ça signifie que je paie un impôt aux monarchies pétrolières qui ont augmenté leur prix. C'est un impôt. C'est une variation relative des prix. Je verrai un peu plus mon pétrole et je consommerai un peu moins quelque chose d'autre. En revanche, si à la suite de l'augmentation générale des prix, si à la suite de l'augmentation des prix de toutes les énergies, la Banque centrale décide de faire tourner la planche à billets pour monétiser cette facture, à ce moment-là, c'est une inflation. Vous voyez bien la différence. Il peut y avoir une hausse des prix sans inflation, une mauvaise récolte, prix de l'énergie, etc. Et les hausses de prix temporaires ne provoquent jamais d'inflation tant qu'elles ne sont pas monétisées. Ces hausses sont l'équivalent d'un impôt payé par les consommateurs. Elles sont en plus, ça on l'a vu lorsqu'on a parlé des marchés, un signal de rareté envoyé au marché de façon à ce que dardard d'autres producteurs se précipitent pour produire à un bon coup et rétablir l'équilibre. En fait, le problème de l'inflation, c'est la tentation politique qu'elle va susciter. C'est un prélèvement caché sur le pouvoir d'achat. On parle d'impôt d'inflation. D'où la très longue tentation des politiques, avec l'alibi intellectuel des économistes keynésiens, comme on va le voir plus loin, d'utiliser l'inflation, c'est-à-dire la création monétaire, pour monétiser les très généreuses promesses de l'État-providence. L'économiste français Jacques Rueff appelait cela la recette du gouvernement gratuit. Je distribuais des faux droits que je payais le moment venu en fausse monnaie. Avec une notion aussi importante, je ne vais pas développer, mais Jacques Rueff avait la théorie de la monnaie, c'est l'égout collecteur des faux droits. Si vous avez un gouvernement qui crée des faux droits, ou une économie qui fabrique des faux droits, ces faux droits, vous les retrouvez toujours dans la monnaie. L'inflation, la déflation, c'est l'inverse. Contraction de la masse monétaire. La baisse des prix ne signifie absolument pas la déflation. Et d'ailleurs, ma tendance personnelle, c'est celle aussi d'Henri Lepage, est de penser que l'état naturel du capitalisme est plutôt déflationniste. On fait des gains de productivité en permanence, donc. La tendance naturelle, c'est la déflation, et il a existé, il existe toujours, de très fortes périodes de croissance, c'était le cas au XIXe siècle, de très fortes périodes de croissance sur toile de fond déflationniste. Mais il y a un problème avec la déflation, c'est qu'elle peut rapidement tourner vinaigre. On peut assez facilement passer de la déflation à ce que j'appellerais la déflation dépression. Et ça, c'est ce que va nous apprendre, à la suite des événements de 1929, la théorie. Irving Fisher, c'est un des pères de la formule MV égale PQ, mais c'est aussi, en 1933, l'auteur d'une thèse sur, célèbre article, la théorie de la déflation par la tête. Alors, expliquons un petit peu ça rapidement. Les booms économiques, on va y revenir dans les cycles, provoque un surendettement. Les crises entraînent une liquidation de la dette. Mais cette liquidation de la dette peut être très rapidement une maladie contagieuse qui va entraîner une très grave dépression déflationniste. Je vais laisser de côté l'explication d'Erwin Fischer pour essayer de simplifier à l'extrême. Si l'on reprend notre bonne vieille équation MV égale PQ, les gens ont peur. Il y a des faillites. La vélocité de la monnaie s'écroule. La monnaie circule moins. Donc les prix baissent. M reste instable, mais les prix baissent. Un agent économique endetté, il a son prêt à rembourser, dont les taux de remboursement ne bougent pas, mais ses recettes qui diminuent, puisque les prix baissent. Il ne va pas pouvoir rembourser. Donc il va faire faillite. Chaque fois qu'il va faire faillite, on le verra tout à l'heure, mais chaque fois qu'il va faire faillite, la banque va être obligée de provisionner des pertes. Donc elle va distribuer encore moins de crédit. Et de proche en proche, vous avez une contagion qui explique très très bien le phénomène de la crise de 1929 et vu par Irving Fisher. D'où l'idée depuis qui consiste à dire ouais, la déflation, quand elle arrive, c'est déjà trop tard. Donc il faut guetter les premiers signes de déflation pour intervenir tout de suite. Si la vélocité de la monnaie s'écroule, il faut immédiatement que j'injecte, thèse est discutable, mais c'est en tout cas c'est une pratique qui a été faite, que j'injecte massivement de la monnaie. Et ça a donné célèbre hélicoptère Ben Bernanke, qui est un historien de la déflation de la grande crise de 1929, dit « Dès que je vois des signes de déflation, je monte dans mon hélicoptère et je jette de l'argent pour empêcher la contraction de la masse monétaire et compenser la vélocité de la perte de la vélocité de la monnaie. » Remarquez que c'est un petit peu ce qui se fait dans les quantitative easing, etc., dont on parle aujourd'hui. Vous augmentez massivement la masse monétaire, les prix n'augmentent pas. Pourquoi ? Parce que V s'écroule. Hein ? Alors, si V repart, ça pose un problème. Parce que quand V repart, tout l'argent qu'on a déversé, il faut remettre le dentifrice dans le tube. Bon, on en parlera une fois, peut-être la semaine prochaine, peut-être tout à l'heure. Mais vous voyez la difficulté. Donc ça, c'est la leçon que l'on a tirée de la grande dépression et de cette théorie quantitative de la monnaie. Donc, j'ai dit la masse monétaire, mais au fond, la masse monétaire, qu'est-ce que c'est ? Pas facile, hein ? Pour piloter donc ces interventions, la Banque centrale, elle va avoir un accélérateur, elle va avoir un frein, et elle va avoir un indicateur de vitesse, celui de la masse monétaire. Et elle va piloter comme ça tant bien que mal. Ce qui fait dire à quelques-uns que ce pilotage manuel ne vaudrait pas un bon thermostat. Hein, quelque chose qui remettrait automatiquement la quantité de monnaie en fonction de la croissance serait beaucoup plus efficace que ces stop and go avec des théories plus ou moins bien assimilées sur des agrégats monétaires dont on va voir qu'ils sont intéressants, mais pas si simples que ça. MV égale PQ, ouais, mais quel OM je prends ? La masse monétaire, c'est considéré, c'est l'ensemble de la monnaie en circulation. Ah ouais, mais laquelle ? Et alors, on va graduer la monnaie en fonction de la liquidité. M1, c'est la monnaie fiduciaire, donc les billets, les pièces, etc. Grosso modo, suivant les billets, ça représente entre 10 et 15% hein, de la masse monétaire. Et puis, tout ce qu'on peut tirer tout de suite, c'est-à-dire les dépôts à vue, en euros pour nous. M2, je prends, c'est M1 plus les dépôts quasi liquides. Durée inférieure à égale à 2 ans. M3, c'est plus les dettes qui ont un certain degré de liquidité. Les OPCVM monétaires, par exemple, les pensions, etc. Et M4, je rajoute des titres de marché qui sont bien liquides, comme les billets de trésorerie ou les bons du trésor. La Banque centrale va donc agir pour injecter ou pour retirer de la monnaie à partir de ces agrégats monétaires. Alors lequel prendre ? Longtemps on a pris M3 parce qu'il y avait une corrélation qui n'était pas mauvaise entre l'augmentation de M3 et l'inflation. Tout à l'heure quand je vous ai donné ce délai de 18 mois à 2 ans, ça correspondait à un agrégat monétaire de M3. Les monétaristes purs et durs vont dire c'est même pas M1, c'est M0. C'est-à-dire juste la part de pièces et billets. Monétaristes orthodoxes vont choisir M1. Donc, inévitable querelle. En réalité, le mieux à faire, c'est d'observer les corrélations. On fait un peu d'histoire, on observe les corrélations. Mais les corrélations, elles fonctionnent jusqu'au jour où elles ne fonctionnent plus. Et c'est vrai que la vélocité de la monnaie qu'on avait tendance à considérer comme stable est devenue beaucoup plus instable. C'est vrai que s'il y avait un lien très clair de 3 trimestres entre M3 et les premiers signes d'inflation depuis longtemps, depuis une dizaine d'années, c'est quand même beaucoup moins évident. D'où l'idée aujourd'hui, chez certains, que la masse monétaire, en réalité, En dehors de M0, ce ne sont que des substituts de monnaie, avec une liquidité variable, et que elles se doivent d'être appréciées, pondérées, et non pas additionnées, là, comme je l'ai fait. Il faut être beaucoup plus intelligent, et faire intervenir des formules mathématiques extrêmement complexes, je ne vous embêterai pas avec ça, simplement pour vous dire que le nom du mathématicien qui inspire tous les calculs les plus modernes sur le choix du bon agrégat, c'est un mathématicien français, qui est mort en 1964, qui s'appelait François Divisia, et aujourd'hui, on a tendance à prendre un indice, qui s'appelle, notamment aux États-Unis, qui s'appelle Divisia M4, comme étant le bon indice monétaire. Nous avons donc vu que la Banque centrale, elle avait un pouvoir considérable, elle va manipuler la monnaie. Et les pressions vont s'exercer, les pressions politiques, pour donnez-moi un peu d'impôt à l'inflation, favoriser mon taux de change. Moi qui suis exportateur de ceci ou de cela, ou éventuellement importateur, mais en général ce sont les exportateurs qui se font entendre le plus souvent. D'où cette réflexion extrêmement profonde que l'on doit à Hayek, confier la monnaie à la garde des politiques, c'est confier le pot de crème à la garde du chat. Ce qu'on a fini par constater, et le mieux, c'était d'essayer, malgré cette connivence qui restera toujours entre la monnaie et le pouvoir, de donner un statut d'autonomie, d'indépendance aux banques centrales qui s'est généralisé dans les deux dernières décennies. On a donné une indépendance assez large, voire totale, aux banques centrales. Ayant été viré d'un comité monétaire d'une banque centrale pour trop indépendant, je sais ce que je dis. Donc les banques centrales se donnent pour objectif d'adapter au mieux l'offre de monnaie aux besoins des agents économiques en évitant l'inflation et la déflation. Quels sont les outils à la disposition des banques centrales ? Là, j'ai mis un robinet, mais on va le voir. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais c'est quand même beaucoup, beaucoup plus compliqué. Il y a eu longtemps le bon vieux encadrement du crédit. Formule pratique, méthode dirigiste. Telle banque ne pourra donner que tel volume de crédit l'an prochain. Ce n'est plus guère utilisé, et en France, il a été définitivement supprimé en 1987. Pour le reste, les banques vont utiliser deux techniques. La technique du taux d'escompte et la technique du marché monétaire. Pour obtenir de l'argent en billets, les banques vont aller à la banque centrale avec des effets de commerce qu'elles vont vendre, escompter à la banque centrale. Et donc, qui va prendre ses titres en pension. Et le taux d'escompte, c'est le taux d'intérêt que la banque centrale va appliquer aux banques commerciales lorsqu'elle leur accorde un prêt. Case et simple. Dans un contexte inflationniste, la banque centrale serre le robinet, c'est-à-dire qu'elle élève le taux d'escompte, le crédit est plus cher, donc il est plus rare. Si on veut stimuler l'activité économique, on ouvre le robinet, ça rend l'argent au marché, et les banques prêtent. Ça, c'est la partie la plus simple. Le marché monétaire, c'est un peu plus complexe. Ça désigne le marché informel, où vous avez toutes les institutions financières, les trésors nationaux, les banques centrales, les banques commerciales, les gestionnaires de fonds, les assureurs, les grandes entreprises, comme les trésoreries, etc. C'est là où on emprunte, où on place à court terme, à moins d'un an ou deux ans. C'est là où les banques vont échanger entre elles des capitaux à court terme, des financiers pour se refinancer, pour ajuster leur trésorerie, placer leurs excédents auprès des autres banques, pour obtenir au jour le jour la satisfaction de leurs besoins de financement. Et la banque centrale, elle va intervenir sur le marché monétaire en refinancement. Si la liquidité interbancaire est abondante, le taux de marché peut être inférieur au taux de refinancement de la banque centrale. En revanche, s'il y a une panne de liquidité, comme on l'a vu peut-être de 2008, à ce moment-là, il y a un besoin de refinancement massif de la banque centrale qui doit déverser des liquidités. Elle intervient sur un marché qui est appelé l'open market, qui offre aussi aux banques des moyens très très souples pour se fournir en monnaie centrale, en vendant des titres moyennes et longues durées, des bons, des obligations. Et ça, ce sont ce qu'on appelle les opérations dites d'open market. C'est consiste en l'achat et la vente ferme de titres, en particulier bien évidemment les bons du Trésor, par la Banque centrale, à son initiative, et seulement à son initiative. C'est la Banque centrale qui tient le robinet. Ça a un effet, bien évidemment, sur la liquidité bancaire, qu'elle élargit ou qu'elle réduit, et ça a un effet aussi sur le prix de marché de ces titres longs. Hein, le prix de marché de ces titres, des dépôts, je parlais des obligations, donc ces obligations d'occasion qu'on met en dépôt, qu'on revend sur l'open market, j'agis sur le prix, ce qui a en réalité une influence sur l'ensemble, même si elle est partielle, du marché obligataire. Et puis, vous avez des tas d'opérations plus nouvelles avec la Banque Centrale Européenne, les opérations de refinancement qui forment l'essentiel des concours de la Banque Centrale Européenne, ce sont des prises de prêts en garantie sur une durée d'une semaine, ça c'est une durée très courte. Et puis, vous avez les opérations nouvelles, non conventionnelles, de refinancement à plus long terme. C'est les fameuses LTRO, Long Term Refinancing Operation, qui sont effectuées pour une durée de 3 mois ou plus, et qui sont destinées à des établissements, souvent d'ailleurs de timbrerie. Donc c'est un marché extrêmement complexe, avec des produits au comptant, avec des produits dérivés, avec des instruments d'action très complexes du style de taux d'intérêt sur des taux au jour le jour du style de Léonia. Léonia, c'est... Enfin, bref, etc. Je mettrai dans le prolongement numérique de cette conférence la description que j'ai faite de tous les outils qui sont à la disposition d'une banque centrale et la façon dont elle les manie. Ce qui est intéressant peut-être de dire, c'est qu'au-delà de ces outils, taux d'escompte, marché monétaire, open market, la Banque centrale les banques vont avoir une exigence de fonds propres. Cette exigence de fonds propres, c'est les ratios fixés par les accords de Bâle. En 88, le comité de Bâle, qui est composé par les gouverneurs des banques centrales de 13 pays de l'OCDE, signe le premier accord de Bâle avec le premier ratio, qui est le fameux ratio Cook. Minimum 8%. Ça vous fait un effet multiplicateur de 12. Quand je reprends ma petite formule MV égale PQ tout à l'heure, je vous dis, je fais faillite. Je suis une banque, je suis une entreprise, je fais faillite. La banque est obligée de mettre moins 100 dans ses fonds propres. Ratio de 12, ce qui signifie qu'elle est obligée de couper 1200 de crédit au reste de l'économie. Vous voyez l'effet domino extrêmement rapide de la déflation. Hein, j'ai 100, oh ben 100 c'est pas grave, et non, ça fait 1200. Et en cascade, et ainsi de suite, c'est l'effet du ratio Cook. Qui a fait dire à certains que le ratio Cook, on verra après le ratio McDonald's, sont des ratios très contracycliques en période de crise. Le deuxième ratio, c'est le ratio McDonald's, qui est un peu plus intelligent, puisqu'on va essayer de tempérer tout ça, de diviser les risques pour mieux les mesurer. Puis aujourd'hui, vous avez le ratio de Bâle 3, qui est cours de livraison, si j'ose dire, et qui est un ratio où on va ajouter un liquidité et un effet de levier, mais toujours pour retrouver à peu ou prou à peu près les mêmes chiffres. C'est la même idée. Vous voyez donc ici, c'est intéressant parce que
voyez la façon dont fonctionne une banque privée. Les dépôts vont créer les crédits. Les crédits vont fabriquer de la monnaie. Et au fond, la banque centrale va fonctionner exactement comme les banques commerciales. Simplement, au lieu d'avoir l'entreprise Madelin ici, ils auront Banque Madelin là. Mais c'est le même principe, le même type de créance, et je reçois de là. Donc, je reviens au système monétaire international. J'exporte des biscuits aux États-Unis. On importe du coton en France. On a chacun des lettres de change. Elles sont compensées, c'est formidable. Elles ne se compensent pas. La compensation, bien évidemment, n'est jamais parfaite. En réalité, la lettre de change, aujourd'hui, on ne parle plus de lettre de change, c'est un système interbancaire de compensation totalement informatisé. Mais pour faire simple, je reviens à la bonne vieille lettre de change. La lettre de change est tirée non pas sur l'importateur, mais sur la banque de l'importateur, ce qui va faciliter les choses et les systèmes de compensation. Comment se fait la compensation? Voilà, il faut revenir. Le système d'étalon or, avec l'étalon or universel, le gold standard, l'or qui est utilisé dans un pays est aussi utilisé à l'étranger. C'est l'histoire de Monsolidus et de Mondilar. C'est la même chose. Donc la compensation est extrêmement facile. L'or va servir de liquidité internationale pour financer les déficits ou les excédents extérieurs sans aucune possibilité de manipulation monétaire. Si un pays a un déficit, eh bien le déficit doit être payé en or. Et si je suis obligé d'exporter mon or pour payer mon déficit, ça signifie quoi? Ma masse monétaire intérieure se réduit. Ma masse monétaire intérieure qui se réduit, ça signifie quoi? La baisse des prix. Et si mes prix baissent, qu'est-ce que ça signifie? Je vais pouvoir vendre, peut-être moins cher, et donc ça va faire repartir l'économie. Que ce soit un peu compliqué avec le rôle de Londres, puisque Londres est devenu au fond la grande place de compensation de toutes les transactions internationales. Et Londres disait, écoutez, on est tellement riche, tellement puissant, si vous ne pouvez pas payer votre déficit en or, je peux, moi, vous acheter des obligations de votre pays. Et Londres, les banques britanniques, le public britannique, souscrivait des obligations du monde entier, ce qui fait que tous les crédits du monde se retrouvaient en Grande-Bretagne et étaient comptabilisés en livres sterling, c'est le fameux, pour les historiens, problème des balances sterling. L'étalon or, c'est bien, mais la discipline n'est pas si simple que ça, puisque vont arriver, avec la révolution industrielle, avec la puissance des États-nations, les grandes guerres mondiales, extrêmement destructrices, qui demandent énormément d'argent. D'ailleurs, des historiens ont souvent calculé que si la discipline de l'étalon or avait été conservée pendant la Première Guerre mondiale, elle n'aurait pas duré si longtemps. C'est parce que on a rompu, à la faveur de la guerre, la discipline de l'étalon or en faveur d'un nouveau système, l'étalon de change or. À la sortie de la Grande Guerre, les pays européens se sont appauvris. Les États-Unis sont maintenant devenus les premiers créanciers du monde. Ils ont laissé flotter leur monnaie pendant la Première Guerre mondiale. Ça a provoqué une hyperinflation et les États vont essayer de s'entendre pour établir une parité entre les monnaies et l'or. Simplement, on va dire que le papier sera aussi bon que l'or et on est passé à un système où les sols extérieurs peuvent être payés
bien sûr en monnaie convertible en or, comme la livre ou le dollar. Et on passe donc au système d'étalon de change or, qui va être généralisé en 1944 à Bretton Woods. Et dans le système d'étalon de change or de Bretton Woods, chaque pays définit sa parité officielle de sa monnaie par rapport à l'or, un dollar égale 35 onces, ou une once d'or égale 35 dollars, pardon. Et les banques doivent tout faire pour défendre cette parité, soit en rachetant des devises sur le marché d'échange pour stabiliser le cours, soit si leur monnaie est attaquée, en rachetant de leur monnaie pour la faire monter et en vendant leur devise. Ce système a bien évidemment les mêmes conséquences internes sur la variation des prix au niveau intérieur que le système des talons or. Simplement, si les déficits peuvent être réglés essentiellement en dollars ou en or, compte tenu du poids du dollar dans le nouveau système, même si les changes sont fixes, et là on va retrouver un problème qu'on va constater avec l'euro, même si les changes sont fixes, les changements de parité sont inévitables. Elles dépendent d'énormément de variables économiques et de la confiance que l'on a dans un pays. Donc, il faut que de temps en temps, des pays puissent procéder à des modifications de parité. En haut, c'est la révaluation. En baisse, c'est la dévaluation. Et ce système va avoir... Pourquoi j'ai pas mis la clé ? Non. Il y a une contradiction extraordinaire du système des talons de changeur. L'or, c'est le dollar. Il n'y a pas assez d'or, bien évidemment, pour alimenter la croissance de l'économie mondiale. Donc, il faut qu'il y ait une croissance du dollar. Il faut fabriquer du dollar. Si les Américains ne fabriquent pas de dollar, le commerce international ne tombera pas. Et en même temps, il faut que le dollar inspire confiance pour être utilisé comme monnaie internationale. Donc il faut qu'il soit rare et en même temps qu'il soit abondant. C'est une contradiction qu'on appelle le dilemme de Triffin, du nom de l'économiste américain qui a exposé ce problème en 1960. C'est valable dans un système d'étalon or, c'est toujours valable aujourd'hui dans un système de change flottant avec les États-Unis américains. Il faut qu'il y ait suffisamment de dollars au niveau international. Et donc, on le verra, ceci fabrique les déficits américains, qui en même temps fabrique ceux de là. Contradiction. Et puis vous avez une autre contradiction, c'est ce qu'on appelle le triangle de Mondal, le nom de l'économiste Robert Mondal qui l'a développé lui aussi dans les années 60. Dans un contexte international, une économie peut poursuivre deux objectifs de ce triangle, mais jamais trois. Il peut y avoir une fixité d'échange. Mais dans ce cas-là, votre politique, vous serez ou obligé de supprimer la liberté des capitaux, ou vous perdrez la maîtrise de votre masse monétaire. Et alors, souvent, la marque fonctionne dans tous les sens. Ça, c'est une règle de base qu'il faut connaître pour comprendre les questions monétaires. Et donc, nous sommes passés ainsi au système d'échange flottant. J'ai mis un symbole de guerre des monnaies, mais après de multiples tentatives de replâtrage, on s'est aperçu qu'il n'était pas possible de maintenir des charges fixes entre des pays aux situations divergentes. Le système de Bretton Woods était en train de disparaître progressivement. On pensait que la stabilité d'échange impliquait la fixité de ceci. En fait, il y a stabilité d'échange lorsque il y a convergence entre les situations économiques. C'est la convergence qui fabrique la stabilité. Ce n'est pas la stabilité qui fabrique la convergence, autre leçon pour l'euro. Donc nous allons entrer dans un système de change flottant qui a ses vertus bien évidemment, qui est défendu par beaucoup, puisque qu'est-ce que change flottant? Ben, c'est-à-dire que le prix, le juste prix de la monnaie sera fixé sur le marché. C'était la conséquence inéluctable, malgré quelques tentatives de raccommoder les parités fixes, de la disparition du système de l'étalon de change or, et le 15 août 1971, lorsque Nixon a mis fin à la convertibilité de l'or et provoqué une profonde dévaluation du dollar américain. Autre concept intéressant, la balance des paiements. C'est ce qui retrace l'ensemble des transactions entre les résidents et les non-résidents. Un problème, là aussi, qu'il faut éclaircir, on entend toujours parler de l'excédent ou du déficit de la balance des paiements. Économiquement, c'est faux. La balance des paiements est toujours en équilibre. Toujours en équilibre. En réalité, la balance des paiements, c'est deux plateaux, la balance des capitaux et la balance courante. Donc quand on parle de déficit de la balance des paiements, c'est la balance courante qui est composée de la balance commerciale, plus les services, les transferts courants, les balances de revenus, ce qu'on appelle les invisibles, et qui provoque l'équilibre automatique avec de l'autre côté la balance des capitaux, qui sont nécessairement appelés en renfort pour équilibrer les déficits éventuels de la balance des transactions courantes. Ce qui signifie que, au niveau international, l'excédent, ici je suis en déficit, il faut donc que ça soit un pays qui ait de l'argent, qui vienne me mettre des capitaux et qui me rétablisse l'équilibre. Est-ce que c'est. Dans quel sens faut-il lire cet équilibre? Est-ce que c'est l'excédent des uns correspond au déficit des autres? Ça, c'est évident. Mais dans quel sens ça fonctionne? Et là, vous retrouvez la question que j'ai posée tout à l'heure à propos du dilemme de Trifine. Le dollar est la monnaie internationale, ce qui lui donne un énorme privilège, mais ce qui lui donne un devoir d'alimentation du monde entier en dollars. Et quand j'alimente le monde entier en dollars, ça signifie que je suis obligé de fournir des capitaux. De l'autre côté, bien évidemment, ceci provoque un déficit. Le déficit, en réalité, américain, est pour une large part le fait, balance commerciale, est pour une large part le fait de rôle des États-Unis dans l'abondement de la liquidité mondiale. Une autre notion importante, c'est la parité de pouvoir d'achat. Dans un marché parfait mondial, s'il existait, au même moment, partout dans le monde, on pratiquerait le même prix pour le même produit. Le monde n'est pas parfait, il y a des coûts de transport, des réglementations, des taxes, un coût du travail, des différences de ressources naturelles, tout ce que vous voulez, etc. Malgré tout, ce n'est pas inintéressant de comparer un panier de consommation grosso modo identique dans les différents pays, en tenant compte bien évidemment des particularités. C'est-à-dire que dans le panier japonais, je vais mettre plutôt du poisson, et dans le panier français, je vais mettre de la viande et du cheval. La comparaison du prix de ces paniers fournit un indicateur d'évaluation ou de surévaluation de la monnaie. Et vous avez un indicateur qui est amusant, vous avez aussi l'indice iPad, vous avez l'indice Bitmac, qui vaut ce qu'il vaut, mais qui vous montre la valeur comparée des monnaies. En réalité,
le taux de change, c'est extrêmement compliqué. C'est sans doute à mes yeux la chose la plus compliquée que j'ai rencontrée, parce que de multiples facteurs affectent le taux de change. Les écarts d'inflation, les taux d'intérêt, le déficit des comptes courants, on a vu, la dette publique, la balance des prix à l'échange, la stabilité politique. Alan Greenspan, dans ses mémoires, dit, comprenant plus très bien comment se faisaient les variations de change, il a fait un panel des 50 meilleurs économistes mondiaux à qui il a donné tous les moyens de la Fed pendant 6 mois pour lui remettre un rapport sur peut-on prévoir les changes. Et la réponse est non. Donc, je ne prétends pas plus intelligent que ces 50 économistes, plus intelligent que M. Alan Greenspan, et l'expérience prouve que l'échange peut avoir des effets d'aubaine, etc., mais c'est très difficilement prévisible, et qu'il vaut mieux que se couvrir, éventuellement jouer sur le marché des échanges si on est joueur, si on est parieur, mais que en réalité, les relations sont tellement complexes, que c'est toute la complexité du monde qui s'y concentre, sans qu'on puisse vraiment expliquer tout cela. En revanche, on peut dire que le change, c'est un prix, avec toute la complexité d'un prix, et que, a priori, le prix est juste si c'est un prix de marché. Sauf que tout le monde ne joue pas le même jeu. Et au marché d'échange, vous avez d'énormes manipulations monétaires. Dans les différents sens, je vais prendre un exemple classique qui est le sac de manipulation entre les États-Unis et la Chine. La Chine exporte des containers, reçoit des dollars, mais ces dollars, au lieu d'être mis dans la masse monétaire chinoise, ce qui ferait gonfler les salaires, ce qui ferait gonfler à défaut le yuan et rétablirait l'équilibre, l'argent est renvoyé aux États-Unis, ou en Europe. Moralité. Le yuan est trop bas. Et ceci joue à la baisse sur les taux d'intérêt longs que sont les bons du trésor américains. Dans le même temps, mais ça c'est une autre histoire, les Américains manipulent leurs taux courts pour des raisons de politique intérieure. Donc vous avez une double manipulation, la manipulation des taux courts ici, la manipulation indirecte des taux longs par l'intervention de la Chine et par le fait que sa monnaie n'est pas librement pour l'instant convertible. Pour ajouter le Japon, pour ajouter, etc., etc. Mais vous voyez qu'il y a un vrai problème. Nous ne sommes pas dans un vrai système de change flottant. Un cas particulier pour l'euro. La zone euro correspond à un espace de parité irrémédiablement fixe, irrévocablement fixe, au sein d'un monde de change flottant. À l'origine, la question s'était posée de savoir. Et Margaret Thatcher l'avait dit dans son discours de Bruges en 1988. Est-ce qu'on ne ferait pas mieux de faire un écu plutôt qu'un euro? C'est-à-dire une monnaie commune qui circulerait, mais qui offrirait quand même une facilité d'ajustement aux monnaies locales, la livre, le drachme, la lire, etc., etc. Mais l'écu étant la monnaie commune, avec le recul du temps. Moi qui défendais cette idée à l'époque, je regrette de ne pas y être complètement accroché, parce que, assurément, le fonctionnement de l'euro n'a pas rempli ses promesses. Alors, à l'origine, il y avait le fait, Mundell, dont j'ai parlé tout à l'heure, avait aussi émis la théorie des zones monétaires optimales. Est-ce que la zone euro est une zone monétaire optimale, où il faudrait que les pays soient très semblables pour pouvoir avoir la même monnaie? L'étalon or a montré qu'on pouvait de fait utiliser une même monnaie pour des pays complètement différents. Le franc CFA montre qu'on peut utiliser le même monnaie, une même monnaie. Là encore, payé sur l'euro aujourd'hui, le franc hier, avec des pays très différents. Sur la technique du currency board, c'est un autre problème, mais le dollar de Hong Kong montre qu'on peut utiliser une monnaie dans un pays très différent des États-Unis, etc., etc. Donc ceci pour dire que l'argument qu'il faudrait être tous pareils pour avoir la même monnaie est un argument que pour ma part je discute. L'argument souvent utilisé, c'est celui qui consiste à dire il faudrait, dès lors que l'on a une monnaie unique, que l'on ait, non seulement une banque centrale unique, mais ça c'est le cas, mais que l'on ait un pouvoir politique unique. Là encore, les exemples que j'ai donnés montrent qu'on n'a pas besoin d'un gouvernement unique. Le gouvernement unique, c'est fait pour quoi ? C'est fait pour dire que s'il y a une différence de productivité entre la Grèce et l'Allemagne, on prendra de force de l'argent dans la poche des Allemands pour les donner aux Grecs. Comme on le fait en France, il y a une différence de productivité entre la métropole, la Guadeloupe ou la Corse, eh ben vous avez un circuit de péréquation. Simplement, on va avoir une forte solidarité hein, pour faire ça. Et en plus, ce n'est pas une nécessité, puisque l'histoire montre aussi que laisser les zones plus libres permet un décollage économique beaucoup plus facile qu'au travers de mécanismes d'assistance. Toujours est-il que lorsque l'on a fait l'euro, on y a mis une condition essentielle, à savoir la discipline budgétaire. Si je vais au restaurant avec une dizaine de copains, et puis on dit au début, bien sûr, on partage l'addition, bien sûr, on partage l'addition, et toi, qu'est-ce que tu prends, menu pour tout le monde? Ouais, menu, non, mais moi, je vais prendre, je vais rajouter la langouste, hein, je vais prendre la langouste, puis en entrée, je vais prendre un peu de caviar. Ça fâche. C'est ce qui s'est passé en Europe. Et en réalité, il n'y a pas eu de discipline budgétaire. La discipline budgétaire, c'était cette fameuse règle des 3% de déficit maximum, 60% de dette maximum. C'est quoi ce calcul? Entendu, on dit c'est un calcul arbitraire. Non, c'est pas un calcul arbitraire. C'est un calcul de bon sens qui, dans les conditions économiques de l'époque, elles se sont dégradées depuis, c'était le point d'équilibre où vous n'étiez pas obligé d'emprunter pour rembourser les intérêts de votre dette précédente. Dès que vous passiez ce double 3%, 60%, vous rentriez dans un système où vous êtes obligé d'emprunter pour rembourser les intérêts de la dette précédente, c'est-à-dire que vous êtes sur la pente d'une boule de neige, la dette ne cesse de grossir. Donc c'était parfaitement sensé. Chirac et Schröder se sont affranchis allègrement de cette discipline budgétaire et c'est une des premières causes de faillite de l'euro. La deuxième cause, ce sont les marchés financiers qui ont cru naïvement et se sont réveillés tard, il y aura peut-être un mot tout à l'heure, mais que une obligation grecque, ça valait pour ou prou une obligation allemande. C'est absurde. Bien évidemment, il aurait dû y avoir une différence des taux des obligations. Au fond, on a permis aux Grecs d'emprunter comme des Allemands en dépensant comme des Grecs. Le résultat de ce mécanisme, c'est très simple, c'est que, appliquer ça à tous les pays, on a fait peut-être trop d'usines en Allemagne d'ailleurs, c'est une question, bon. On a fait trop de fonctionnaires en France, trop de piscines en Grèce, trop d'immobilier en Espagne, parce que on pouvait bénéficier des taux allemands avant que les marchés ne se réveillent. La deuxième erreur plus importante qui reste devant nous, quoi qu'il advienne de l'euro, c'est que j'ai dit tout à l'heure que nous sommes dans un système d'étalons fixes. Au fond, c'est l'équivalent d'un système d'étalons or. Donc, si à un moment donné, MV égale PQ, si à un moment donné, dans un pays, il y a une baisse de productivité, imaginez que quelqu'un arrive avec une idée folle, tiens, on va faire les 35 heures dans notre pays. Vous trouvez dans une situation où normalement, si vous aviez gardé votre monnaie, vous auriez dévalué. Si chacun avait gardé sa monnaie, jamais les Grecs n'auraient pu emprunter comme ils ont emprunté. Très tôt, le drachme aurait dévalué par rapport au Deutschmark, et les choses se seraient corrigées. Pareil en ce qui concerne la France. Aujourd'hui, le franc aurait baissé, le mark aurait monté, et les salaires en Allemagne auraient monté, et les salaires et les prix en France auraient baissé. Le prix des actifs, le prix des salaires, le prix des pensions, tout aurait baissé. En prix relatif, bien évidemment. Quand je ne peux pas baisser cela, parce que j'ai la rigidité monétaire, je suis obligé, comme on le fait aujourd'hui, de mener une politique de déflation brutale. Il faut baisser tous les prix, les salaires, les pensions, les trucs. Ça marche. Dans la crise, j'ai été conseiller d'un Premier ministre libéral, il y en a un en Europe, c'est le Premier ministre Letta. J'ai été son conseiller. On a pratiqué une politique de déflation, brutale, très dure. Pas suivi les conseils du FMI, refusé de suivre les conseils du FMI. Qui a reconnu son erreur, qui a dit, ah, c'est un miracle, béton. On a mené une politique de déflation. Moins 30% de fonctionnaires, moins 30% sur les salaires des fonctionnaires, moins 30% sur les salaires. Voilà. Donc, résultat, curieusement, moins 18% de croissance, mais les prix se sont aussitôt réajustés, la machine est repartie. Et aujourd'hui, on parle du miracle béton. Mais ce sont des laitons. Je ne proserai pas ça pour la France. La dernière fois qu'on a fait une politique déflationniste, c'était Laval en 1935, ça veut dire. Regardez ce qui se passe avec les problèmes politiques d'une déflation en Grèce, en Italie ou ailleurs. Enfin, donc la déflation, c'est extrêmement coûteux politiquement. Les laitons sont exceptionnels. Depuis, il y a eu 7 élections où ils ont été parti au pouvoir a été régulièrement réélu. Il faut dire que le Mélenchon, le Cal, n'a pas de chance, il est russe. Il n'aime pas beaucoup les Russes en Ukraine. Bon, ça facilite les choses. Mais il n'en reste pas que c'était des gens sérieux, donc qui ont pu accepter une politique déflationniste que je ne me permettrai pas de recommander ailleurs. Donc, les politiques déflationnistes sont très difficiles à mener politiquement. Donc, à défaut de mener une politique déflationniste, brutale au moment d'une crise, l'autre solution qui devait accompagner l'euro, c'était l'extrême souplesse des économies, de façon à pratiquer à chaque instant la variation des prix relatifs. L'économie très souple, c'était vaguement, pas assez ambitieux, mais c'était déjà au moins une ambition, l'objectif du traité de Lisbonne. Faire de l'Europe la zone la plus compétitive, etc. Et toute une série de réformes de structure, qui étaient des réformes structures qui allaient dans le sens d'une très grande souplesse de l'économie. On n'a pas fait la discipline. On n'a pas fait la souplesse. Donc on a eu l'explosion. Et si par hasard, on réussit à maîtriser la remise en selle de l'euro, il restera la question essentielle de cette souplesse économique qui est tout à fait consubstantielle au bon fonctionnement de l'euro. Si vous avez des rigidités, vous êtes obligé ou d'abandonner l'euro, ou le cas échéant, c'est un projet politique pour certains, d'avoir une sorte de super État européen avec un super pouvoir européen, de façon à pouvoir assurer les transferts nécessaires. Quelques mots des cycles économiques. La vie économique, c'est facile à observer, pas la peine de théoriser trop, il y a des booms, il y a des busts. Lorsque l'économie atteint un sommet insoutenable, l'activité économique plonge, et provoque parfois des récessions. Une récession, vous le savez, c'est la chute du PIB pendant 2 trimestres au moins. Et les récessions sont d'ailleurs souvent précédées, on pourra peut-être autant en dire un mot, par des bulles économiques. Grosso modo, l'économie se comporte comme sur ce tableau, croissance globale, mais ça passe un peu comme des montagnes russes. Avec ce schéma, qui est un schéma presque mental, mais qui n'est pas inutile, l'optimisme, la dépression, la peur, l'anxiété, le truc, etc., ça correspond à un état mental des acteurs économiques. Pour essayer d'expliquer les cycles, ce qui surtout se constate, on a plein d'explications, Kondratiev, pour qui le progrès technique commande, la machine à vapeur, le chemin de fer, le moteur à explosion, l'électricité, l'électroménager, voilà, ce sont des cycles de 20 ou 30 ans. J'ai jamais compris ça, mais il y a Clément Juglard qui vous explique l'origine du cycle seul crédit, qui vous trouve des cycles de 9 ans. Schumpeter qui vient vous expliquer qu'il y a des cycles courts, moyens ou longs, suivant les innovations. Juste aussi. Il y a Alfred Aftagnon qui vous explique la théorie du poil, c'est-à-dire que comme un poil à charbon, de temps en temps il fait trop chaud, alors on ouvre la fenêtre de temps en temps. En fait, plein d'économistes extrêmement brillants qui se sont penchés sur les cycles. Ce qui est vrai, c'est qu'en période de croissance, et particulièrement en période d'innovation, de croissance-innovation, les gens qui ont gagné, regardez dans le secteur dans lequel ils vont. Tout le pognon qui gagne, premier arrivé, il met des barrières autour, il essaie d'avoir le maximum de profit, évidemment, il est seul. Il a une petite rente de monopole, il va en profiter. Donc, immédiatement, tout le monde se précipite pour essayer d'aller lui grappiller sa rente de monopole. C'est la concurrence, les capitaux disent c'est un secteur formidable, on y va. Ouais, c'est bien, mais on peut y aller trop nombreux. Et il y a trop de capitaux, il y a trop d'entrepreneurs qui se ruent sur ce créneau. Moralité. Et là, il y a des mauvais investissements qui sont à liquider. C'est la dépression, c'est la crise, et le bust, et la dépression. Donc ça, c'est à mon avis l'explication la plus simple, qui peut ensuite être théorisée. Et c'est ce qui va être fait avec l'importance de la politique monétaire. Avec quelqu'un qui est essentiel, qui est Knut Wicksell, qui est un économiste suédois, pour lequel il y a deux taux dans l'économie. Il y a un taux naturel, qui est le taux à long terme. C'est celui qui équilibre en gros l'offre et la demande. Pour faire simple, je ne vais pas rentrer dans le détail à cette heure-ci, c'est le taux de croissance. Le taux naturel, ça doit être le taux de croissance à long terme. Et puis vous avez un taux d'intérêt monétaire, qui est alors là le truc que l'on observe sur le marché du crédit. Si le taux naturel n'est pas égal au taux de marché, eh bien, il y a des variations qui expliquent le cycle. Un taux d'intérêt effectif trop faible, c'est l'inflation. Un taux d'intérêt effectif trop fort, c'est la déflation. Et c'est cette idée qui va être reprise à son tour par l'école et amplifiée par l'école autrichienne d'économie pour expliquer les cycles. C'est dire, au fond, grosso modo, que le taux d'intérêt de marché doit osciller autour du taux de croissance. Et que l'écart entre le taux naturel et le taux de croissance déclenche les cycles. Wicksell nous dit aussi autre chose, nous dit que les cycles, c'est quelque chose d'extrêmement simple. Et que les crises ont une fonction qui est de liquider les erreurs du passé. Et que la plus mauvaise politique consiste à essayer d'empêcher la crise. On verra peut-être une différence entre accompagner socialement la crise et empêcher l'ajustement. Vous pouvez essayer d'accompagner socialement, mais empêcher l'ajustement, c'est toujours extrêmement dangereux. Vous avez une autre question, c'est une question, ah oui, je vais en dire un petit mot de la courbe des taux. En réalité, le taux d'intérêt est déterminé, je parlais du taux d'intérêt moyen là, mais il est déterminé par des facteurs réels, l'épargne, la productivité réelle du capital. Le niveau des prix, lui, est déterminé par l'offre de monnaie, et les techniques d'offre de monnaie vont déterminer les taux courts des banques centrales. Bon. En réalité, vous avez trois types de courbes de d'intérêt. La première, la plus normale, hein, la plus fréquente, c'est les rendements augmentent avec la durée des placements. C'est logique. Le prix des obligations, c'est la valeur actualisée des flux monétaires qu'elle va générer. Deuxièmement, les rendements sont à peu près les mêmes, quelles que soient les périodes. De temps en temps, vous avez des taux inversés, vous en avez vu récemment. Les agents préfèrent prêter à court terme et emprunter à long terme. Soit parce que les taux longs se sont écroulés, ce qui est un cas de figure, soit parce que les taux courts, au contraire, sont en train de flamber. Et donc, on fait un arbitrage entre taux courts et taux longs, ce qui peut expliquer cela. Toujours est-il que, en réalité, il y a des corrélations mathématiques assez grandes entre les courbes des taux. Et donc, finalement, quel que soit le taux, il est révélateur de l'état d'un marché. Donc, les crises ont une fonction de création, de destruction, et donc de création. Le mieux, c'est de laisser les entreprises faire faillite, les prix fluctuer et se réajuster, permettre au capital productif
de s'ajuster et de se reconstruire à partir de l'épargne réelle. Ça, c'est la théorie. La pratique, c'est bien évidemment un peu différent. L'exemple classique, c'est la crise de 1929. Ça, c'est le modèle des erreurs à ne pas commettre. Forte création monétaire avec la Seconde Guerre mondiale, forte inflation, fausse prospérité, bulle boursière, jeudi noir, le 24 octobre 1929. Pouf, le crédit, il y en avait beaucoup trop, la pyramide ou le château de cartes s'écroule, ce qui provoque un blocage des investissements et en fait va déclencher la fameuse spirale déflationniste dont a parlé Fischer dans sa théorie de la déflation par la dette. La masse monétaire d'ailleurs va diminuer de 30% entre 1929 et 1932. Alors là, la réaction des pouvoirs politiques, elle est extraordinaire. Vous comprenez rien. Donc on va fermer les portes aux produits étrangers, protectionnistes, on va rigidifier tous les prix, mettre en prison les gens qui voudraient travailler pour moins cher, enfin, toute la panoplie des erreurs est là par rapport à une crise qui est une crise déflationniste. Le 17 octobre 32, il y a 6 économistes, dont le célèbre Keynes, qui viennent et qui disent maintenant il n'y a plus qu'une seule solution, c'est la relance massive par la dépense publique. Et celui-ci m'amène à dire un petit mot de Keynes et de ses concepts essentiels. La crise, c'est au fond la grève de la consommation et des investissements. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, les gens ont peur et il y a une fuite vers la liquidité. Totalement discutable, parce que fuite vers la liquidité, les gens ne prennent pas de l'argent pour l'enterrer dans un jardin. Les gens prennent de l'argent pour mettre sur leur compte en banque. Et on a vu que l'argent qui est chez le banquier, il travaille, il ne dort pas. Donc, Keynes, à mon avis, est faible sur ce point-là. Et l'idée de Keynes, c'est qu'on peut y aller d'autant plus qu'il existe un multiplicateur keynésien. Multiplicateur keynésien, c'est formidable. Quand l'État dépense 100 euros, ces 100 euros vont être reçus par des bénéficiaires, puis il va être utilisé à son tour, un peu le mécanisme de multiplicateur de crédit chez les banques. Et puis, voilà, ben, donc, ça, on déclenche une chaîne vertueuse. Ben oui, mais si au lieu de ce soit l'État, c'est M. Dréan qui dépense ses 100 euros, c'est exactement la même chose. Ah si, une différence. Qui est-ce qui va dépenser le mieux ? M. Dréan ou l'État ? Et donc ça suppose, a priori, que vous pensez que historiquement, la dépense publique est plus féconde que la dépense privée, ce qui reste là encore à prouver. Toujours est-il que l'essentiel peut-être de l'idée de Keynes, elle est plutôt sociale. Il y a d'ailleurs cette phrase qui aurait dû faire retourner Bastiat dans sa tombe, il dit, par provocation, hein, « Mieux vaut encore embaucher des gens à creuser des trous et à les reboucher, plutôt que de plonger dans la récession utiliser et laisser le chômage s'installer. » Il dit, bah, c'est purée ça. Bon, on creuse des trous, on les rebouche, et ça fait de l'activité. Il faut dire quand même que dans l'explication de Keynes, je laisse de côté la trappe à liquidité, parce que c'est un concept qui n'a pas tort, hein. À un moment donné dans l'économie, quand le système bancaire est en panne, les liquidités que vous réinjectez, c'est le cas aujourd'hui d'ailleurs, ne sont pas utilisées par les banques commerciales pour prêter, mais elles vont être utilisées pour se désentêter. Et tout l'argent disparaît. Vous l'utilisez à autre chose. Voilà. Donc, bon. Toujours est-il que Keynes, lorsque il va prôner la dépense publique, à mon avis, il agit beaucoup plus que comme un homme politique que comme un économiste. Je m'explique. Il a été frappé, il a d'ailleurs publié un bouquin là-dessus, par la façon dont Churchill avait mené une politique déflationniste dans le début des années 20 en Angleterre. Et ça a été une politique extrêmement brutale, avec troubles sociaux, etc. Il a été frappé, et frappé par les risques que fait courir l'Allemagne, et la montée du totalitarisme en Allemagne sur un peuple exsangue. Et donc, au fond, Keynes, c'est un accompagnateur social d'un mal économique, plus qu'un grand économiste à mes yeux. En tout cas, le politique Keynes peut de temps en temps avoir raison, l'économiste se discute davantage. Toujours est-il que ce qu'on va retenir de Keynes, bien évidemment, c'est le type qui va justifier la dépense publique pour lutter contre le chômage. Formidable succès marketing auprès des hommes politiques de la seconde moitié du XXe siècle, qui vont, Keynes, en veux-tu, en voilà. Sauf que dans les années 80, on pense quand même que Keynes est mort, et voici qu'il va ressusciter... juste de côté, avec la récession de 2008. La récession de 2008, à l'origine, c'est
une crise d'un produit financier qui s'appelle les subprimes, lesquels subprimes sont des produits totalement fabriqués par la puissance publique américaine, avec la garantie de deux agences, etc. etc. Peu importe. Il y a un petit boom, il y a une petite bulle immobilière en Floride, pas grand-chose hein, sur les prix, 10%, 15%, c'est relativement faible. Et brutalement, l'ensemble du système va s'écrouler. Les créances de Fannie et Freddie et des subprimes que l'on croyait garanties ne sont pas garanties. Produits frelatés, classiques, viande de cheval dans les lasers. Et donc, à partir de ce moment-là, au lieu de faire un chèque de 200 milliards pour solde de tout compte, c'est fini. Au lieu de faire un chèque, les pouvoirs publics américains ont dit non, oh, ils ont fait des bêtises, oh, on va les laisser se débrouiller. Eh bien, quand la maison flambe, elle met feu à tout le quartier. C'est ce qui s'est passé parce que l'économie avait inventé des produits extrêmement complexes, qui s'appellent produits dérivés, titrisés. C'est-à-dire qu'on avait pris un peu de subprime, de viande de cheval, pour la foutre dans des tas d'autres produits. Et donc les gens disent, il y a du subprime dedans ? Ça vaut rien. Et donc, en normes, vous avez des normes comptables qu'on a imposées, qui sont les normes IFRS. Pas coté sur le marché, pas cotable, valeur zéro. Valeur zéro. Ensuite, vous ajoutez les normes de Bâle sur les fonds propres. Qu'est-ce que vous avez ? Tout ça, c'est en valeur zéro. Et donc, vous rentrez dans un système de déflation. La mécanique déflationniste que j'ai montrée tout à l'heure, c'est le crédit qui s'écoule. Ce n'est pas une déflation par la dette, j'avais fait un article sur ce thème, c'est une déflation par la norme. C'est la norme des normes IFRS plus les normes du comité de Bâle qui, mêlées ensemble, vont provoquer la cascade bancaire, de la restriction du crédit, de la panne de la vélocité de la monnaie, les banques qui ne se prêtent plus, et il faut, hélicoptère Ben, injecter massivement de la monnaie, ce qui n'est pas faux d'ailleurs. Là-dessus arrive Keynes II, Keynes homme de l'année 2009, dans les grands magazines internationaux, pour les échos en France, l'enjeu les échos, Keynes homme de l'année 2009, quelle horreur, et voilà qu'on lance le concours du plus gros plan de relance. Mon plan est plus gros que le tien. Bien évidemment, surplus de dépenses publiques. Les pays qui s'en sortent le mieux, ce sont les pays qui n'ont pas fait de relance keynésienne. Moi, j'avais pris deux pays en marche part en Europe. J'avais pris la Pologne, qui, par idéologie, avait dit « Nous ne pensons pas que Keynes soit une bonne solution. Donc, nous ne ferons pas de relance keynésienne, mais au contraire, nous baisserons les impôts. » Et la Suède, qui n'a pas fait de relance keynésienne, à l'issue de la crise, c'était les deux pays qui s'en sortaient les mieux. Donc, relance keynésienne, on fait la relance keynésienne, massivement. Et on s'aperçoit qu'on a fait une bêtise, qu'en réalité, ça se surajoute à une crise de la dette qui était déjà latente. Donc, c'est la goutte d'eau qui fait déborder, etc., etc. Et après, voici qu'on lance, on y est encore, le concours du plus gros plan de rigueur. Les mêmes, d'ailleurs, hein, le FMI qui a lancé les deux concours de vote. Donc, voilà le fonctionnement de la crise et du retour de Keynes en espérant son enterrement définitif pour une raison très simple, c'est que Keynes a légitimé la dépense publique, mais la dépense publique ne peut pas grimper jusqu'au ciel à un moment donné. Le trop-plein de dépenses publiques, nous y sommes, entraîne une situation qui est, on en parlera dans la semaine prochaine dans une conférence avec Marc de Citivo sur la situation actuelle qui est menaçante et profondément intenable. Je vais vous dire un petit mot aussi des marchés financiers pour essayer de faire un peu le tour d'horizon. Vous avez le marché classique, la bourse, les actions, porteurs de projets, rencontre les porteurs de pognon. Pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait un marché d'occasion. S'il n'y a pas de marché d'occasion, bien évidemment, je ne vais pas me laisser piéger. Donc ça donne le mécanisme des bourses. Et puis vous avez, depuis quelque temps, la grande foire des produits financiers, avec la mondialisation financière, le développement de l'informatique, l'innovation,
une multitude extraordinaire de produits financiers extrêmement sophistiqués. Pour faire ça, vous avez deux familles, hein, les produits dérivés et les produits structurés. Beaucoup de gens vont vous dire, mais ces produits, on ne comprend pas, ça n'a aucun lien avec l'économie réelle. Si, c'est loin, mais ça a un lien. Ça rend l'argent intelligent. Et plus l'argent est intelligent, plus il va pouvoir aller financer les innovations qui préparent la société de demain, les pays qui ont besoin de s'en sortir aujourd'hui, et financer dans des conditions toujours plus avantageuses. C'est ce à quoi on a assisté, donc nous ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Donc vous avez les produits dérivés qui sont des instruments de couverture, je dirais un mot avec la spéculation. Vous trouverez dans, lorsqu'on publiera cette conférence, le détail et les explications de tous les produits et de tous les systèmes de vente à découvert, de marché de gré à gré, d'effet de levier, etc. etc. J'essaierai de mettre l'accent sur les produits dont on parle le plus, les CDS, les CDO qui sont apparus pendant la crise, sans parler de toutes les dérivées modernes qui permettent de faire des... Juste un exemple, tenez, pour comprendre l'économie, ça me vient à l'esprit, pour comprendre l'intérêt. J'ai essayé de vendre ça à l'actuel ministre des Finances et à l'ex-ministre du Budget. Quel que soit le gouvernement, nous avons un problème, c'est financer la transition énergétique. La transition énergétique, c'est quoi? C'est, à un moment donné, avoir des investissements qui permettent de faire des économies d'énergie. Donc, je fais quel investissement et j'ai telle économie d'énergie pendant 20 ans ou 30 ans. Donc, si je suis capable de donner une sécurité juridique à l'économie d'énergie pendant 20 ou 30 ans, je suis capable de titriser la créance d'économie d'énergie avec un revenu stable pendant 20 ou 30 ans. Les investisseurs institutionnels sont intéressés pour les prendre. En plus, c'est un investissement dit socialement responsable. Donc, on va le prendre. Et donc, je suis capable de financer tout de suite des investissements de transition énergétique. Vous voyez, c'est un exemple, on pourrait multiplier les produits, mais c'est un exemple d'utilité permanente de ces outils financiers, d'autant que je pourrais ensuite indexer ça, faire un produit extrêmement sophistiqué. Oui, mais si le prix de l'énergie varie, donc je vais pouvoir faire un produit dérivé qui va jouer sur le prix du pétrole. Et puis, la dérivée climatique. Enfin bref, on peut faire des tas de choses. La finance, c'est de la haute intelligence ajoutée, et c'est quelque chose d'extrêmement utile. Ce qui est intéressant de dire juste un mot, c'est peut-être le produit dérivé, le produit structuré, je passe, le rôle précieux de la spéculation. Sur le marché financier, on trouve des instruments de couverture que l'on achète, que l'on échange pour se protéger des fluctuations de tout. Des taux de change, des taux d'intérêt, des cours des actions, des obligations. Ah oui, et de bon ton de fustiger la spéculation et les spéculateurs. Ça rappelle les vieux affameurs du commerce des grains. Je rappelle que l'économie française, elle est née dans un grand débat sur le commerce des grains. Et que dans ce débat sur le commerce des grains, faut-il l'entraver, faut-il le libérer? On a dit, il faut le libérer. Et que le rôle de la spéculation est apparu extrêmement utile, puisque c'était quelque chose qui permettait de réguler le commerce des grains. Donc, dans toute la littérature économique du 19e siècle, vous avez l'éloge du spéculateur sur le commerce des grains, parce que c'est lui qui va permettre de tenir compte de l'aléa climatique et de permettre le marché, etc. Bon, je passe là-dessus. En fait, nous sommes tous des spéculateurs. Spéculer, ça veut dire un spéculaire qui signifie observer de loin. Où je vais passer mes vacances cet été, je préfère aller au soleil, je spécule sur le soleil. Enfin, en permanence, nous sommes spéculateurs. C'est aussi vieux que l'histoire du monde. Et vous avez deux types de spéculateurs. Les spéculateurs économiques, et pour qui c'est une assurance, et prudentielle, et puis des spéculateurs financiers qui vont se joindre au jeu pour rendre le marché plus large et pour partager les risques sur une base plus grande. Un producteur de blé souhaite vendre très cher son blé, mais il n'est pas sûr de sa récolte. Un producteur de pâtes souhaite acheter bon marché
son blé l'an prochain.
On échange. Et donc, on va trouver une protection de l'un et de l'autre. Je prends un exemple que je prends de temps en temps. Un marchand de maillot de bain a intérêt à un été ensoleillé. En revanche, un marchand de parapluie, si l'été est ensoleillé, c'est une catastrophe pour lui. Donc, c'est un exemple bien évidemment caricatural, mais qui montre comment chacun des risques va trouver sa contrepartie. Et comment ces deux acteurs mis en rapport sur le marché financier, par la spéculation, c'est une réduction du risque qui a un véritable avantage économique. De la même façon que l'on a vu dans l'échange entre AO et CRO, que l'échange était producteur de richesses nouvelles, là, la spéculation, elle est productrice de sécurité. Donc vous avez le jeu des acteurs économiques d'un côté, et puis de l'autre côté, vous avez les spéculateurs dits professionnels, qui vont donner la liquidité à ce marché, mais là encore, ce sont des adultes majeurs vaccinés responsables qui jouent avec leur propre argent, c'est un problème de dire un mot, mais lorsqu'ils jouent avec leur propre argent sur ce marché-là, le gain d'un spéculateur est la perte de l'autre. C'est un jeu à somme nulle entre spéculateurs et à somme positive sur le plan économique. Prenons juste un exemple. Paulson, il fait une énorme fortune. Pourquoi ? Parce qu'il dit, putain, qu'est-ce que les marchés sont cons. Il pense que la dette grecque, ça vaut la dette allemande. Ça ne va pas durer, ce truc-là. Donc moi, je vais vendre des assurances sur la dette grecque. Et il vend des assurances sur la dette grecque. De toute façon, il est fou, ce type-là. Je souscris pas cher. Et donc, il vend des assurances relativement bon marché sur la dette grecque. Ensuite, quand la catastrophe se produit, ben, M. Paulson va revendre ses assurances 40 fois le prix. Hein, et il va empocher énormément d'argent. Mais qui va être gagnant ? Surtout les gens qui ont pris l'assurance de M. Paulson. Le gain économique, il est là. Il a un super profit parce qu'il a été plus intelligent que les autres, il a vu le truc, etc. Mais lui, c'est le spéculateur qui gagne. Celui qu'on va dire, oh là là, il a gagné. Mais enfin, c'est tous les autres spéculateurs qui ont perdu en faisant le pari contraire. Et personne ne va aller les plaindre. Voilà, c'est ça, la spéculation. Et vous avez des fonds dits spéculatifs, les hedge funds. Le terme spéculatif est trompeur. Ce sont des gens qui vont jouer un rôle essentiel. L'efficience du marché. Ils vont repérer les anomalies. Mon exemple de Paulson était bon. Les anomalies à un moment donné sur le marché, et ils vont essayer de réparer, de gagner de l'argent sur ces anomalies. On a vu avec Hayek l'hypothèse qu'il n'existait pas de marché parfait, mais qu'en revanche, il existait des marchés efficients. Et vous avez des gens qui traitent l'information disponible un peu à leur façon, à façon d'un vautour, mais qui vont en réalité avoir une très grande utilité. L'économiste américain qui a dit ça, sont les loups qui sautent sur les brebis qui s'égarent du troupeau, mais l'image n'est pas mauvaise. En réalité, les gains de la spéculation sont très souvent la contrepartie de l'immense service qu'ils rendent au marché. Si le marché était parfait, les spéculateurs ne gagneraient rien. Donc, ils contribuent à un marché en meilleure santé. Vous avez un problème qui est celui du shadow banking, un système bancaire parallèle. Vous avez deux banques, vous savez qu'on a les banques de dépôt, les banques d'affaires, que les banques d'affaires, à l'origine, ne recevaient pas de dépôt, qu'elles travaillaient sur leurs fonds propres, qu'elles étaient détenues par des associés, souvent en commandite, responsables indéfiniment sur leur patrimoine personnel, qu'on ne fait pas de bêtises, comme dans les fonds d'ailleurs aujourd'hui. Hein. Donc ces risques sont pris avec l'argent que des associés, c'est ça l'origine de la banque d'investissement. Et la banque commerciale, vous savez qu'au lendemain de la grande crise américaine, il y a eu en 1938 le Glass-Steagall Act pour séparer ces activités, banque d'investissement, banque d'affaires. Et puis, Clinton est revenu sur cette séparation. Pourquoi ? Parce qu'on est dans les années, fin des années 70, plein d'innovations financières qui arrivent sur le marché. Et concurrence bancaire. Et les banques qui se faisaient des burnes en or avec faible concurrence et une clientèle un peu obligée, découvrent la concurrence, non seulement la concurrence des banques en train, mais vont découvrir la concurrence des hedge funds.
ces fameux vautours là qui sont là, qui innovent plein de produits, etc. Les types qui amassent des bonus considérables en intervenant, comme je l'ai dit, avec leur propre argent ou l'argent de leurs commanditaires. Mais nous, ce serait quand même bien si on pouvait nous-mêmes faire les mêmes activités. On a du fric, maintenant on n'a plus de séparation entre les deux, on a le fric de nos déposants, et on a, nous, quelque chose que n'avaient pas les banques d'investissement, la garantie implicite du système, la fameuse connivence d'État. Donc, en voiture, en voilà, on va pouvoir se jouer au hedge fund. Mais jouer au hedge fund sans les responsabilités des hedge funds. Ce qui fait que les taux de levier qui vont être utilisés par les banques et qu'on va découvrir dans la crise, c'est pour Biocène un taux de levier de 35, pour AIG un taux de levier de 50, là où le taux de levier d'un hedge fund c'est 2, 2,5, 3. Et l'extraordinaire imprudence des banques qui jouent au hedge fund. Les hedge funds ne sont pour rien dans la crise. Tout le monde dit « Ah, vous verrez la crise des hedge funds. » Ils sont pour rien. Ils ont subi la crise, ils sont restructurés, puis ils sont repartis. Mais en réalité, le vrai problème vient des banques déréglementées ou mal réglementées qui, sous la couverture éventuellement de règles de prudence ou l'absence de règles de prudence résultant de leur fonctionnement de connivence avec l'État, se sont imprudemment livrées à des activités de hedge funds. Alors, on aurait pu croire, en réalité, c'est la grande découverte de Greenspan, la mienne aussi, de découverte de beaucoup de gens, que les banques avaient fait ça avec des véhicules d'investissement hors bilan. Et donc, c'était triste pour leurs véhicules hors bilan, mais que ça n'avait pas remonté dans le bilan. La réalité n'est pas celle-là. À l'heure de la crise, on a découvert qu'il y avait des tas de liens divers, etc., de près, de clos, qui fait que les banques ont été obligées de rapatrier cette finance hors bilan dans leur bilan, ce qui a contribué à l'accélération de la crise de 2008. La crise de 2008 est derrière nous, maintenant c'est la crise des finances des banques centrales, des finances des États que nous avons aujourd'hui, et non plus la crise financière. Donc le shadow banking, c'est au fond tous les gens qui, pour faire ça avec leur argent, c'est pas tout à fait vrai parce qu'on prend un peu d'argent ailleurs, mais fondamentalement avec leur argent, vont jouer des outils très sophistiqués de la finance entre acheteurs avisés. Si vous vendez un produit, quel qu'il soit, ces produits structurés, dérivés, etc., vous êtes un hedge fund global macro, un hedge fund spécialisé sur les retournements, hedge fund, etc. Quand vous allez présenter votre produit à des gens pour mettre de l'argent, c'est mon métier, je vous assure que les gens regardent qui vous êtes. Quelles sont les garanties que vous apportez, quel est le sérieux que vous mettez, quel est votre track record. C'est vraiment de la finance entre majeurs, adultes, consentants. Ça n'a rigoureusement rien à voir avec les dépôts de banque. Et donc, vous avez au fond la banque et la banque parallèle en connivence avec la première banque qui fonctionne dans le shadow banking. Et puis, vous avez la finance libre du shadow banking, je crois qu'il ne faut pas confondre les deux, la finance libre étant elle-même très 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 utile à l'économie et ne lui faisant à mes yeux pas porter de risque, encore qu'il est toujours très prudent d'avoir des autorités qui se penchent pour regarder quels sont éventuellement les risques systémiques qui pourraient résulter de ces activités. D'autant que, on le sait bien, vous avez en économie un phénomène qui est un phénomène extrêmement dangereux, qui prépare la crise, ce sont les bulles. Je ne développe pas cette question, mais à un moment donné, tout l'argent se précipite sur quelque chose. Alors ça se précipite sur la tulipe, je crois qu'on a multiplié le cours par 90, là c'est l'effondrement total, la ruine totale. Ça se précipite sur les chemins de fer, ça c'est moins grave, parce que vous avez ruiné toute une série de gens qui ont investi dans les chemins de fer, mais les chemins de fer restent. Vous voyez, donc vous avez deux types de bulles spéculatives. Vous avez la bulle spéculative qui reste rien, puis la bulle spéculative qui ruine des actionnaires ou des investisseurs imprudents, ce qui n'est pas, qui est beaucoup moins grave que la pure spéculation financière. Voilà, j'ai fait le tour des monnaies. des concepts fondamentaux que nous reprendrons avec Marc la semaine prochaine. Juste un mot quand même sur ce point, la monnaie 2.0. Nous ne subissons pas une crise, nous vivons une mutation. La crise, c'est celle du modèle des banques centrales, des grandes banques centrales qui ont aujourd'hui pour la plupart des bilans gonflés et dégradés. Donc, c'est pas très bien comment on sortira. La mutation, en revanche, ça c'est de la sortie de la crise des banques centrales, ça vous dit ça. La mutation, en revanche, c'est celle que l'on a déjà vue à plusieurs reprises, la structure pyramidale polycentrique vers une structure horizontale et plate. Ça, c'est la mutation profonde de la société. À mon avis, elle s'applique à la finance. Vous avez, au fond, l'économie réelle, c'est 40 trillions. Ça, c'est l'économie réelle à l'échelle de la planète. Et pour faire vivre cette économie réelle, vous avez environ 700 trillions d'argent qui circulent dans ces circuits monétaires. Le problème des banques centrales, c'est, quelle que soit la nécessité ou la vertu des interventions qui sont les leurs, elles font mentir plus ou moins les prix de la monnaie. D'où plusieurs idées. Ah, il faudrait qu'on vienne à l'étalon or. Ah, il faudrait qu'on ait un mécanisme automatique d'émission de monnaie, centralisé ou décentralisé, pour suivre croissance. Ah, il faudrait revenir à la banque libre. Alors la banque libre, c'est, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais dans l'histoire des banques et des banques centrales, il y a eu des intermèdes. C'est-à-dire qu'en Écosse, entre 1745 et 1845, on a eu des banques centrales libres avec une monnaie entièrement privée. En France, on a eu la même chose sous le directoire et le consulat. Aux États-Unis, dans la Nouvelle-Angleterre, au 19e siècle, on a eu également une banque libre. Donc le modèle existe. Et il est fortement théorisé par de nombreux économistes, de Charles Koechlin à Hayek. En réalité, il y a deux types de banques libres. Il y a la banque libre, pour certains, qui est la vraie banque libre à émission limitée à leurs actifs, à pure 100%, et puis il y a la banque libre à réserve fractionnaire, fondée sur la confiance, comme on l'a évoqué. Je pense que les transformations iront plus loin, parce que ça, c'est un peu la reproduction du passé. Je peux me tromper, mais... la valeur des choses, on l'a dit, elle est forcément subjective. Elle est dans le regard de chacun. C'est-à-dire que chaque chose qui se vend et qui s'achète, ou le regard de chacun peut donner une valeur, peut servir de valorimètre, c'est l'étalon de valeur. Et reprenez mon bétail, ou mes roues de pierre de 3,60 m de l'île de Yap. C'est-à-dire qu'on peut prendre n'importe quoi comme valorimètre. N'importe quoi. Alors on voit des tas d'initiatives assez amusantes, un peu babacool, un peu libertaires, se produire au niveau local. Vous avez depuis longtemps le LET, qui est une monnaie locale d'échange de troc en Angleterre. En France, vous avez le SEL, qui allait défendre les producteurs de sel, enfin, de cette monnaie service d'échange local. Vous avez l'euro RES en Belgique. Vous avez un vieux système qui fonctionne depuis la fin de la guerre en Suisse entre les entreprises, qui s'appelle le WIR en Belgique. Vous avez l'OSCO, qui est la nouvelle monnaie basque. Vous avez le MIPIS pour la région Midi-Pyrénées, MIPIS. Vous avez l'EOL à Brest. Vous avez des monnaies spécialisées, le Wellness Token pour les pays nordiques, pour la santé. Vous avez pour le marché de l'éducation, vous avez le Saber au Brésil. Même à Nantes, on va bientôt, ou on l'a lancé, le Nanto, à l'initiative du Crédit Municipal de Nantes. Certains pensent que Héro n'a pas confiance tout à fait dans l'euro et qu'il prépare l'avenir avec le Nanto. Je ne m'en dirai pas. Donc c'est vous dire que les monnaies locales, ça existe, Mais ce qui est intéressant, c'est un phénomène naturel, ça ne va pas très loin. Mais est-ce que les monnaies virtuelles, les monnaies d'échange, mélangées avec le net, ça peut donner quelque chose? La question est posée. Alors vous avez un marché intéressant en ce moment, pour les investisseurs, qui est le marché des coupons. Facebook Deals, etc. Les miles, etc. Et je fais des chambres de compensation où j'ai une bon Carrefour, je te les échange contre des miles. Donc de fait, vous créez un système monétaire. Vous avez des monnaies communautaires virtuelles, universelles sur Facebook. Vous avez fait les Facebook Credit. Vous aviez le Linden Dollar, vous l'avez toujours d'ailleurs, sur Second Life. Vous avez des monnaies sur des jeux vidéo en ligne comme Zynga. Il y a plein de choses qui se font. Vous avez le Toolars sur Twitter depuis quelques temps. Vous avez les KuCoins en Chine, le réseau chinois. Et puis vous avez, l'actualité en parle, le Bitcoin. $1 milliard, dit-on, de valorisation, etc. Un distributeur, on ne l'a pas vu, mais enfin on l'a annoncé, un distributeur de Bitcoin à Chypre, donc ils soignent leur publicité en ce moment. Je ne vais pas rentrer dans la description de Bitcoin. Mais au fond, c'est l'idée d'une monnaie sans étalon. Pas besoin d'étalon comme l'or. Une pierre suffit. Un coquillage. À l'origine, on avait commencé avec le coquillage, les fameux choristes. Mais là, au lieu d'être un bien matériel, c'est un bien dans lequel je donne ma confiance, qui va me servir d'étalon d'échange, et qui est une équation mathématique. Un algorithme de création de Bitcoin lui-même en open source, auquel nous nous faisons confiance, et nous pouvons échanger en P2P, nous pouvons échanger ensemble des biens en se référant à notre monnaie virtuelle. Je ne sais pas quel est l'avenir du Bitcoin. On va pas à cette heure-ci entreprendre une discussion sur le Bitcoin. Je ne sais pas quel est l'avenir du Bitcoin, mais je sais, je sens que il va se passer des choses dans les décennies qui viennent. Ça sera très long. On a vu que l'émergence de la monnaie, c'est un phénomène long et compliqué. Puis vous avez l'existence des banques centrales. Mais il y a de grandes chances que dans cet univers-là, on trouve des référents de confiance qui soient très différents de cet univers-là. Et donc, c'est l'idée d'une monnaie non manipulée, servant, remplissant les fonctions traditionnelles de la monnaie, qui sera peut-être un jour d'actualité. Bien évidemment, ce ne sera le fait que le jour où des grands réseaux, style Facebook, Google, ou une conjonction de grands réseaux, décideront de lancer une monnaie qui deviendra référente. À mon avis, pour autant que je suive un petit peu ces questions, ils ne sont pas pressés parce qu'ils pensent à juste titre que la lutte dès lors avec les banques centrales sera féroce. Je vous remercie, bonne soirée.